Lux Radio.
Avec ou sans parure, du lundi au vendredi à 14h
sur Lux Radio.
Rachid Alaoui.
Bonjour et bienvenue à tous sur Lux Radio à Casablanca 99.2 et à Marrakech 101.2. Avec ou sans parure, votre émission de débat politique débute avec comme thème loi de finances, climat des affaires. Les patrons sont-ils optimistes? Avec un point d'interrogation. Pour ce débat, nous accueillons Loubna Keroum, qui est chef d'entreprise, Hazim Sbata, qui lui est président du CJD, le centre des jeunes dirigeants, Yassine Benkeroum, qui lui est directeur général d'un cabinet d'expertise comptable et commissaire aux comptes. Parmi nous également Mehdi Soubti, qui lui est membre du comité exécutif de l'Alliance des économistes de l'Istiqlal et membre du conseil national de l'Istiqlal, et ainsi que Radom Fadel, lui, dirigeant d'entreprise. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et encore merci d'avoir accepté notre invitation au débat, mais sans plus tarder, l'édito préparé par la rédaction.
Il aura fallu 4 ans, 48 mois, plus de 1400 jours et près de 35 000 heures pour que le personnel politique commence à admettre que le Maroc est impacté par la crise financière internationale, transformée depuis en crise économique et en crise sociale. C'est dire la capacité des gouvernements dirigés par Abbas El Fassi, puis celui piloté depuis moins de 12 mois par Abdelilah Ben Kiran, à appréhender une réalité inéluctable et à agir afin de se prémunir au mieux aux chocs budgétaires et économiques. Choc budgétaire aujourd'hui qui ne peut être masqué et ignoré. Preuve en est la croissance de la dette publique, la croissance des déficits structurels de la balance des paiements et celui de la balance commerciale, d'où le casse-tête pour boucler l'année 2012 et 2013 s'annonce encore plus tendu. Choc économique avec la communauté des affaires qui n'a cesse d'être inquiète et soucieuse au vu du climat des affaires, des dirigeants d'entreprises qui déplorent l'absence de visibilité en matière de stratégie, de priorités économiques, le tout packagé au travers d'un cap, d'une constance et d'une cohérence censée être assurée par le gouvernement. Un gouvernement qui a hérité d'une situation économique loin d'être des plus radieuses, tension sur les finances publiques, accentuée par les chèques en blanc signés par l'exécutif sortant, composé de l'Istiqlal, du RNI, de l'USFP, du Mouvement Populaire et du PPS, d'une économie à bout de souffle et en quête d'oxygène, sans parler d'un contexte social sur fond de protestations et revendications. Valeur du jour, 5 ans après la gestion économique du gouvernement de Abbas El Fassi, 4 ans après le déclenchement de la crise internationale et près de 10 mois après l'installation du gouvernement d'Abdelilah Ben Kiran, qu'en est-il de la situation économique? Force est de reconnaître que la situation socio-économique n'a cesse de se dégrader. L'État, premier acteur économique du pays et premier employeur, doit gérer l'urgence, urgence caractérisée par l'élaboration d'une loi de finances sans ressources financières suffisante pour assurer de l'investissement public, moteur de croissance et pour rassurer investisseurs et dirigeants d'entreprise. Du coup, les patrons ont-ils le moral? Quelle appréciation font-ils de la conjoncture économique et du contexte social? Sont-ils confiants? Considèrent-ils que le Maroc peut gérer la crise sans crise? Ont-ils confiance dans le personnel politique, dans la capacité des Marocains à se serrer les coudes et à accepter de revoir à la baisse leurs exigences de qualité de vie et de consommation? Si la CGEM a donné le la en multipliant les critiques sur des dispositions fiscales prévues dans la loi de finances 2013, comme la surfiscalisation des salaires de 25 000 à 50 000 dirhams par mois, est-ce que les dirigeants d'entreprises sont aussi critiques? Et quoi de mieux que leur donner la parole, d'ouvrir le débat, des débats, car comme tout à chacun, les acteurs économiques ont droit de citer, de s'approprier le débat public sans être exclus, voire marginalisés par le politique.
Avec ou sans parure. Le débat est ouvert.
Mehdi Soubti, membre du comité exécutif de l'Alliance des économistes de l'Istiqlal et membre du conseil national, d'ailleurs du parti de l'Istiqlal. Peut-être une observation ou réaction sur l'édito.
Bonjour, c'est Rachid, merci pour l'invitation. Pas d'observation particulière. Je remarque que dans l'édito, on est revenu plusieurs fois sur le bilan du gouvernement El Fassi et le climat des affaires. Donc on aura l'occasion aujourd'hui d'en parler avec vous sur le climat surtout des affaires.
Très bien. Yassine Benkeroum, je rappelle que vous êtes directeur général d'un cabinet d'expertise comptable et commissaire aux comptes. C'est bien ça?
Tout à fait, tout à fait.
Et président du CJD, centre des jeunes dirigeants à Rabat.
À Rabat, tout à fait.
Observation, remarque sur l'édito avant de rentrer dans le vif du sujet, du débat.
Alors sur l'édito, moi je pense qu'on partage certaines idées qui ont été exprimées, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons de vraies réflexions qui doivent être menées, notamment concernant, par exemple, aujourd'hui, on parle de quoi ? De cette loi de finances ? On parle, il faut bien voir que les gens comprennent qu'on parle d'un état de dépenses-recettes. Donc aujourd'hui, déjà, on part d'une situation qui est aujourd'hui très... c'est une vision de la situation. Si demain, il y a un projet, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais si on a demain une vision d'avoir un bilan actif-passif CPC pour l'État marocain comme les entreprises, là, peut-être on commencerait à comprendre ce qu'est la situation économique du Maroc. Aujourd'hui, peut-être on a une vision...
Est-ce qu'il y a ces mécanismes, vous considérez qu'on doit gérer un État comme on gère une entreprise ?
C'est un projet qui a démarré au Maroc depuis quelques temps, mais je pense qu'il est aujourd'hui en stand-by. Il faudrait voir avec le ministère des Finances. Mais en France, c'est un projet qui était lancé en 2005 et qui a démarré. Aujourd'hui, par exemple, certains États produisent des actifs-passifs CPC. Je m'exprime, c'est-à-dire le compte entreprise, c'est le compte État. Aujourd'hui, par exemple, la dette marocaine n'apparaît pas dans les comptes de notre finance. On a un état dépenses-recettes. On était dans une logique d'épicerie. J'ai mes encaissements, moi mes décaissements. Je pense que ça, c'est un vrai débat, un vrai schéma, une vraie vision qu'il faudrait avoir pour avoir une vraie vision de ce que sont les engagements de retraite, par exemple. On ne les voit pas dans le bilan.
Et sur lesquels, effectivement, ces différents sujets sur lesquels on va revenir durant le débat. Loumna Kelloum Jorbek, vous êtes chef d'entreprise ?
Oui, tout à fait.
Et peut-être réaction sur l'édito ?
Bon, je suis en général d'accord avec ce qui a été dit.
D'accord sur le fait que par exemple, le gouvernement aujourd'hui qui est aux responsabilités,
il se
doit aussi, voilà, il y a un héritage aussi.
Oui, tout à fait, il n'est pas le seul responsable. En plus de ça, je suis tout à fait d'accord sur le retard pour la reconnaissance de la crise. Je crois que ça aussi, ça nous a causé beaucoup de problèmes concernant la visibilité de l'économie marocaine, etc. Donc il fallait reconnaître la crise bien il y a 2 ans, 3 ans. On l'a ressenti, on l'a bien ressenti sur.
C'est-à-dire, cette crise financière qui s'est déclenchée à l'échelle planétaire. Voilà, en 2008.
Il y a 4 ans.
Il aurait fallu, selon vous, la reconnaître
exactement,
beaucoup plus tôt.
Exactement. Dans les autres pays, ils l'ont reconnu. Ils ont fait plusieurs mesures pour ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est non, on n'a pas la crise. Et finalement, on s'est trouvé piégé. On s'est trouvé dans vraiment une crise, mais doublement.
Peut-être essayer de recentrer le débat, c'est Rachid, sur quelle crise on est en train de parler aujourd'hui au
Maroc. Le sentiment un petit peu général de chacun aussi sur effectivement, déjà la lecture de l'édito, parce qu'il y a différents points qui ont été mis en relief aussi dans le cadre de la rédaction de cet édito. Hazim Sebata, je rappelle que vous êtes président voulu du CJD à l'échelle nationale, le centre des jeunes dirigeants, appréciation particulière par rapport, dans un premier temps, à l'édito et cette crise, la gestion aussi de la crise, et puis après, en toile de fond aussi, la situation économique et votre appréciation.
Merci Rachid. L'édito a dit 3 mots extrêmement importants. Visibilité, cap, cohérence. Ce sont les trois choses qui manquent complètement dans cette loi de finances. Or, ça fait quand même 10 mois que le gouvernement est là. Ça fait 10 mois que les Marocains attendent, que les Marocains se disent les 100 jours sont passés, les 6 mois sont passés, puis 10 mois. Voilà. Donc nous attendons cette visibilité, ce cap et cette cohérence. Rappelons que ce gouvernement a été quand même élu ou nommé dans une situation très particulière. Les Marocains attendaient une rupture, attendaient un changement. Et cette loi de finances nous explique qu'en fait, il n'y a aucun changement, que tout est exactement dans la continuité.
Il y a une rupture, un changement dans la manière d'exercer la politique ou dans la manière de mener les politiques publiques à caractère économique ?
Justement,
ou les deux à la fois, peut-être ?
Les Marocains attendent un message. Attendent un message de rupture, attendent un message d'un gouvernement qui dit à la population « Nous vous avons entendu, nous vous avons compris ». Je suis en train de paraphraser quelqu'un. Mmh. Or, cette loi de finances nous explique qu'en fait, tout est exactement la même chose qu'avant. Ce sont des personnes qui sont différentes et c'est tout.
Madame Fadel, dirigeant de l'entreprise, votre sentiment général peut-être à la fois sur l'édito et sur les prises de parole et les propos aussi des uns et des autres.
Moi, j'ai une double remarque.
Vous pouvez rapprocher du micro, s'il vous plaît.
Pour bien comprendre les enjeux liés au débat actuel sur la loi de finances, il faut bien comprendre la nature de la crise actuelle. Souvent, on lit dans certains éditos que c'est une crise importée, comme si nous étions un îlot de croissance et de bien-être, et qu'on aurait les méchants européens qui nous auraient inoculé le virus de la crise. En réalité, le Maroc était porteur en lui-même de graves fragilités structurelles et qui sont apparues depuis 4 ans fortement, donc à la lumière de cette crise. Donc, j'aimerais bien resituer les choses pour comprendre le débat sur la loi de finances. C'est un, c'est une crise qui est lié non pas simplement à la conjoncture actuelle en Europe, mais à des déficits structurels, à des fragilités structurelles de l'économie marocaine. Et d'autre part, effectivement, c'est une crise qui a impacté l'économie marocaine depuis 4-5 ans. depuis 4 ans, depuis 2008. 2009, on l'a fortement ressenti. Et il faut essayer aussi de se poser la question pourquoi à l'époque, donc les dirigeants qui étaient aux affaires ont fui, ont dénié le problème et pourquoi ce retard dans la prise de décision impacte encore plus durement l'économie marocaine et pose encore plus difficilement les solutions liées à la sortie de crise.
Mehdi Sebti, je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif de l'Alliance des économistes de l'Istiqlal et membre du conseil national du parti de l'Istiqlal. Pour aussi, avant de passer au débat aussi sur la loi de finances et l'appréciation aussi de chacun sur les nouvelles dispositions fiscales, enfin sur les dispositions fiscales en tout cas, qui sont prévues dans cette loi de finances 2013, retard à l'image concernant le fait de effectivement reconnaître les effets de la crise ou pas selon vous?
Moi, je pense, c'est Rachid, qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, essayer de voir de quelle crise nous sommes en train de parler aujourd'hui. Pendant le gouvernement Le Fessi, puisque vous l'avez cité, en 2007 et 2012, les indicateurs macroéconomiques n'étaient pas à ce niveau d'aujourd'hui. Donc moi, je dirais que le Maroc vit aujourd'hui une crise de déficit extérieur, donc de balance de paiement. Nos partenaires principaux sont touchés par cette crise, donc ils sont malades. Donc automatiquement, nous subissons cette partie de la crise qui touche nos partenaires mondiaux et européens. Il faut juste rappeler quelques indicateurs que la croissance au niveau du PIB mondial a été revue dans les alentours de 3,3% pour l'année 2013 et pour la zone euro, principal partenaire du Maroc, revue à 0,2% pour l'année 2013. Donc la situation est vraiment très difficile.
Donc pour vous, Mehdi Sebti, simplement pour être clair, c'est un effet de contagion en fait. Hein.
C'est un effet de contagion. Je pense que dire que les anciens gouvernements ont un peu laissé de côté ce terme crise et ont bassiné un peu tout le monde avec la situation du Maroc, ce n'est pas vrai. La situation s'est détériorée très très vite. Je vais vous donner un indicateur. Il y a encore 2 mois, on parlait de 4 mois de couverture de nos importations. Les chiffres d'hier, 3 mois,26 jours.
Monsieur Sebti, vous êtes dans votre rôle. Je crois que vous êtes représentant d'un parti, donc vous défendez un bilan. Moi, je suis là pour aussi recentrer le débat de manière honnête intellectuellement, parce qu'on est quand même des gens qui savons analyser la chose économique et qui savons analyser les évolutions économiques. Je peux vous assurer que bien avant donc l'avènement de ce gouvernement, les 3 derniers exercices donc durant lesquels le gouvernement El Fassi était au pouvoir, la balance commerciale s'est très très fortement dégradée et nous avons vu donc la couverture des importations exportations atteindre même pas 0,5. Nous avons vu aussi la dégradation très forte de la balance des paiements.
0,5, c'est quoi 0 quand vous dites
0,5? C'est-à-dire qu'on importe 1 pour 2 d'exportation. On importe 2 pour 1 d'exportation.
C'est-à-dire qu'on importe 3 fois plus qu'on importe.
Les 10 dernières années, effectivement, les chiffres sont publiés dans la loi de finances, la balance commerciale s'est très fortement dégradée, à savoir que les importations ont explosé à la faveur du crédit et de la déliquescence de notre réseau industriel. Et parallèlement, on a eu un endettement de l'État qui s'est très très fortement dégradé avec un recours à l'emprunt sur le marché intérieur et puis sur le marché extérieur. D'ailleurs, deux choses, l'endettement d'ailleurs de l'État et l'endettement des collectivités, mais aussi l'endettement des établissements publics a explosé. Ça veut dire qu'on a financé le budget de l'État
à des niveaux acceptables aujourd'hui.
On a financé des dépenses, souvent des dépenses de fonctionnement et l'accroissement de la masse salariale des fonctionnaires par le recours à l'emprunt, c'est-à-dire en hypothéquant l'avenir des générations futures.
Yacine Benkeroum, directeur général d'un cabinet d'expertise comptable.
Moi, je voulais rebondir rapidement sur ce qui vient d'être dit, sur la crise importée, crise locale. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Sur la partie crise locale, moi je vais vous parler en tant qu'expert comptable. Moi j'ai la déformation de lire les états financiers des entreprises cotées, non cotées, en tout cas toutes celles qui sont cotées. Et quand je lisais les états financiers en 2006-2007 et que je voyais les cours en bourse, j'étais effaré. Alors mes amis qui m'appelaient, qui me disaient tu es expert comptable, tu peux nous donner des conseils, je leur conseillais de mettre leur argent dans du monétaire, pas dans le marché boursier. Donc, parce que quand on voit une action.
Mettre l'argent dans du monétaire, c'est mettre de l'argent où? Le placer où son argent?
C'est des fonds monétaires. C'est de l'obligataire court terme non risqué.
Comme quoi, par exemple pour...
C'est des obligations, c'est du court terme, des OPCVM, des SICAV monétaires qui sont quasiment non risqués, où le risque n'est pas très élevé. Parce que quand je lis un bilan d'une société qui a un actif net comptable de 20 dirhams, et que je vois qu'elle est cotée à 5000 dirhams sur le marché, il y a un vrai problème. Que c'est ce qu'il y a où...
Je suis d'accord avec vous, monsieur Yacine, mais le fait de dire que c'est une crise importée, dédouaner aussi. C'est dire, finalement, moi, je ne suis pas responsable, et c'est l'extérieur, c'est l'exogène.
Si vous permettez, parce que juste, je voulais revenir avec Yacine Mekong, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon esprit. C'est-à-dire quoi, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a eu des informations financières qui étaient pas en adéquation avec la réalité.
Non, l'information financière telle qu'elle est donnée, elle est donnée à l'appréciation des boursicoteurs. Ils doivent la lire, ils doivent la prendre en considération. Quand je suis en train de négocier sur un marché une action à 5000 dirhams alors que j'ai un bilan qui me donne 100 dirhams, après c'est ma responsabilité.
Ça c'est un autre débat parce que vous savez très bien qu'il y a des analystes si actuellement dans la presse et dans certains instituts qui validaient certaines projections et qui induisaient peut-être, un certain nombre de.
Et je crois savoir que c'est le CDVM qui se devait ou qui se doit en tout cas d'apporter son cachet pour certifier toutes ces informations financières.
Si Yassine parlait plus de l'opposition de l'investissement spéculatif par rapport à l'investissement productif. Nous avons laissé pendant des années l'investissement productif au lieu de. On s'est dirigé vers le spéculatif, la bourse, l'immobilier, etc.
J'avais proposé en 2008, dans l'occasion avec un débat au niveau de la presse, j'avais proposé par exemple de faire ce qui se faisait à l'époque en France, pas dans un mimétisme, j'allais dire, irraisonnable, mais dans une logique, j'allais dire, purement long terme, de dire que quelqu'un qui va boursicoter sur moins de 2 ans, il est taxé à 40%. Quelqu'un qui reste plus de 2 ans, on peut le taxer à 10%. Donc créer par exemple cette logique d'investissement à long terme et de permettre d'avoir une économie.
Est-ce que quelque part, effectivement, on n'était pas aussi dans la tendance mondiale où il était beaucoup plus, où ce qui était à la mode, j'avais dire, c'était beaucoup plus de spéculer que d'investir dans l'appareil productif. C'était ça, en fait. Cette période de 2004, 2005, 2006.
Mais je pense que l'inconvénient de cette situation, c'est de voir aujourd'hui qu'un entrepreneur qui a pu, en 2007-2008, se faire doubler ses plus-values sur une action, on vient aujourd'hui lui dire, monsieur, vous allez lancer un business avec 10% de rentabilité. Mmh. Ah, ça, c'est la difficulté.
C'est dur à accepter, mais effectivement, Lubna. Lubna Kerum, chef d'entreprise. Oui.
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec
Ardan Fadel. Oui.
Exactement. C'est que déjà, on ne peut pas gérer une crise dans 10 mois. On ne peut pas reprocher au gouvernement actuel qu'il n'a pas géré cette crise. Il y a le gouvernement qui était avant, il a utilisé les dettes et les empreintes pour couvrir les dépenses. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas senti ça ni sur la balance des paiements, ni rien du tout. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a passé par une année de sécheresse. Ça veut dire qu'on a importé la majorité de nos besoins de consommation. Donc tout ça, ça a un impact.
Une année de tension sociale.
Ça a aggravé, vous voulez dire, la situation
financière
économique.
Il ne faut pas oublier le printemps arabe. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y avait un recrutement dans l'État, donc il faut parler des salaires aussi. Et qui a fait, comment on paye les salaires? Il n'y a pas la production, mais on fait recours toujours aux dettes.
Vous avez tout à fait raison.
Azim Sabata, président du CJD.
Oui, simplement, cette levée de bouclier qu'on a assisté aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes en crise, c'est simplement parce que l'État a donné un message. C'est simplement nous attendions de comprendre, nous attendions de voir, et le message aujourd'hui qu'on attendait, on ne l'a pas eu. En tout cas, on en a eu un autre.
Oui, personnellement, moi, je pense que maintenant, nous sommes dans une situation de crise. Il faut arrêter les discours politiques et de chercher qui a fait l'erreur, etc. Même sans vraiment en situation de crise, le Maroc va très très mal, il faut l'avouer. Monsieur Ben Barka, il l'a fait maintenant il y a quelques jours, et il ne l'a même pas fait officiellement.
Nizar Baraka, vous voulez dire?
Oui, monsieur Nizar Baraka, au Parlement.
Oui.
Au Parlement, il a reconnu, exactement, il a reconnu la crise, mais il l'a reconnu dans un milieu avec des parlementaires, etc., mais il ne l'a pas fait officiellement.
Ce serait intéressant, c'est la chaîne d'écouter ce matin en disant de quelles attentes vous attendiez dans ce projet de loi de finances, qui est un projet de loi de finances.
C'est un projet de loi de finances, mais si vous permettez aussi, parce que je voudrais qu'on va y aller tout doucement, hein, c'est histoire aussi de planter le décor, savoir un petit peu effectivement cette prise de décision, quand est-ce qu'on a appréhendé et reconnu l'existence de la crise, par effet de contagion ou pas, comme vous l'avez soulevé, Mehdi Soubti, mais c'est aussi, il y a aussi des orientations et des choses. Des décisions politiques ont été prises à caractère économique. Il y a eu aussi des plans sectoriels qui ont été lancés. Je fais référence au plan émergence, le plan Azur pour le tourisme, le plan Maroc vert pour l'agriculture ou encore le plan offshoring. Azim Sebatas, aujourd'hui, quelle appréciation vous faites de toutes ces politiques publiques à caractère économique qui avaient vocation aussi à structurer notre économie? Est-ce qu'elles ont porté leurs fruits? Est-ce qu'elles ont permis de structurer quelque part un modèle économique? Ou pas, ou est-ce qu'il faut, faut les réajuster éventuellement?
Oui, il y a du moyen terme. Je vais revenir sur le terme message, hein, parce que j'y tiens beaucoup. Quand un gouvernement nous donne le cap en disant les métiers du Maroc demain seront l'aéronautique, l'automobile, etc., etc., les opérateurs économiques comprennent que c'est là qu'il faut y aller et que le gouvernement souhaite qu'on aille là-bas. Donc le Maroc doit aller en entier, les opérateurs économiques, les ménages, tout le monde comprend qu'il faut aller là-bas. Quand je dis les ménages, même les mamans disent à leurs enfants, c'est là où tu dois aller faire tes études. Nous avons un cap, nous avons un barreur. C'est un peu les rameurs et les barreurs.
Donc, ces plans sectoriels n'ont pas eu justement aussi vocation à mettre en relief les relais de croissance.
C'est exactement, c'est ce qui s'est fait. Bravo, c'est ce qui s'est fait.
Oui, mais
simplement.
Allez-y.
Simplement.
Allez-y,
là, nous sommes en période de crise. Je reviens à mon exemple de barreur et de rameur. Donc, vous avez une barque et vous avez une tempête. Qu'est-ce qui se passe? On regarde tous le capitaine. Qu'est-ce qu'on fait? Et le capitaine ne nous dit rien.
Et pour vous, le capitaine, c'est...
C'est le gouvernement.
Le gouvernement et Abdelilah Ben Kirane, chef de gouvernement, avec l'ensemble des ministres de ce gouvernement. Pardon, Fadol, sur tous les plans sectoriels qui ont été lancés ces dernières années, avec un financement public conséquent, est-ce que, selon vous, elles ont porté leurs fruits, elles ont permis, quelque part, de structurer un modèle économique ou pas?
Moi, j'aimerais dire deux choses et revenir sur... Pourquoi il est important aussi de mettre le doigt sur ce qui n'a pas été fait précédemment? Parce qu'on est dans une nouvelle ère et que nos dirigeants doivent être comptables de leurs actes ou de leur inaction. Je m'explique. Vous avez des gens qui, pendant plusieurs années, nous ont dit « la résilience, on n'est pas touché ». Ces gens-là portent une responsabilité, quelle qu'elle soit. Et donc, il faut leur envoyer un signal clair que les Marocains aujourd'hui sont aujourd'hui conscients des enjeux, de la problématique et des difficultés, et que il ne faut pas leur raconter de salade et que dorénavant, on sera très attentif à ce qu'ils nous diront et que moi, je serai à leur place, je me ferai tout petit parce qu'ils ont été soit incompétents, soit hypocrites. Ceci dit, sur les plans sectoriels, je crois que tout n'est pas à jeter. C'est vrai que c'est de formidables piliers pour le développement de l'industrie marocaine, donc très bien. Simplement, ce serait bien un petit peu de faire une pause pour évaluer un petit peu l'efficacité de ces plans sectoriels par rapport à leurs coûts et aussi de bien évaluer, de bien identifier si ces plans sectoriels à eux seuls peuvent répondre aux problématiques qui se posent et aux défis marocains, à savoir l'enjeu démographique. Il y a à peu près 350 000 à 400 000 jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi chaque année. On aura de gros défis en termes d'emploi sur les 10 prochaines années à résoudre. Et je ne pense pas que ces plans sectoriels à eux seuls pourront répondre à cette problématique. Surtout qu'ils sont extrêmement budgétivants. Ceci dit, on les salue et c'est des expertises marocaines qui sont aujourd'hui reconnues au niveau international.
Mehdi Sebti, membre du comité exécutif de l'Alliance des économistes de l'Istiqlal, sur les différents plans sectoriels qui ont été lancés ces dernières années dans différents secteurs d'activité,
comme
le tourisme, comme l'agriculture, comme la pêche aussi, je ne sais pas citer le
point. Oui, les sept métiers mondiaux du Maroc, plus les différents plans sectoriels. Donc effectivement, ils ont été lancés depuis 2002 jusqu'à nos jours. On en voit encore de plus en plus. Il faut dire qu'un certain nombre d'activités ont aussi subi un petit frein dû à la crise qui nous a aussi touchés. Il est vrai qu'aujourd'hui, on la sent vraiment. Je pense notamment à terminer le plan offshoring, le secteur sur l'offshoring, à terminer les plans Azur. Donc les 6 stations, il faut le rappeler, les 6 stations du plan Azur ne sont terminées aujourd'hui qu'à hauteur de 7-8%. Donc il faut se poser les questions. Bien, il y a eu des plans sectoriels. Certains d'entre eux n'ont pas été terminés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les terminer? À l'Alliance d'économistes istiqlaliens, au-delà d'un certain nombre d'amendements qu'on présentera dans quelques jours, d'ailleurs, puisqu'on a travaillé avec nos députés, on pense qu'il y a moyen de terminer ces plans sectoriels, notamment, par exemple, le plan Azur.
Quelque part, avoir recours toujours à l'investissement public et donc
une entrée au capital par l'État. Une entrée au capital par l'État, comme ce qui a été fait par Renault.
Yassine Benkeroum, directeur général d'un cabinet d'expertise comptable et commissaire aux comptes, sur ces différents plans sectoriels, est-ce que vous considérez aujourd'hui, comment vous les appréciez d'une part, est-ce que vous considérez qu'il faut aller jusqu'au bout, les mener à leur terme ou il faut ajuster, voire réajuster?
Là, je vais vous parler non pas en tant que témoin, mais en tant qu'acteur.
C'est encore mieux.
C'est plus simple. Alors, j'ai eu la chance d'accompagner ces programmes, notamment à travers l'accompagnement du programme offshoring en tant qu'expert comptable de nombreuses entreprises qui sont installées sur Casachor, à Technopolis, d'accompagner des entreprises, c'est toujours le cas, je les accompagne toujours, d'entreprises qui sont dans l'automobile, qui sont venues dans le cadre de la stratégie des métiers mondiaux du Maroc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion, un vrai débat à lancer sur la feuille de route. Où est-ce qu'on en est? Sur l'offshoring, par exemple, on voit aujourd'hui, moi j'ai accompagné par exemple un des clients qu'on a, en 2005, ils étaient à 30 salariés, aujourd'hui ils sont à 900 salariés. À 900, je ne dis pas, ce n'est pas un opérateur, c'est 900 ingénieurs. Donc c'est vrai que c'est des réussites qui sont très belles pour le Maroc, pour la destination Maroc. Alors, sur la mise au point, sur les incentives, les choses qui ont été données par l'État marocain, il y a des choses qui ont été bien faites. Il y a des choses qui bloquent. Exemple, les remboursements de TVA, je vais le dire, parce que c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui. Mais il y a un vrai potentiel.
Je
vais prendre ma casquette CJD aussi. On est dans la logique du positif. On n'est pas dans la logique de dénigrer à tout prix, mais il faut être positif pour avancer. Et je pense positivement, il y a beaucoup de potentiel.
Positif, c'est réaliste.
C'est être réaliste, c'est rationnel, aussi. Oui, il faut aller chercher les marchés ailleurs, il faut bouger.
Terminer l'investissement dans ce secteur.
Je voulais qu'on reste là-dessus, justement, parce qu'on va passer aussi à la loi de finances et tout ce qui est prévu. Yacine Mekaoun, mais il y a ensuite Azim Sabata, sur vous considérez, Yacine Mekaoun, qu'il faut aller jusqu'au bout des plans sectoriels ou faire une évaluation qui soit rationnelle et se dire, voilà, effectivement, est-ce qu'on va au terme du plan Azur, par exemple, avec, comme l'a souligné Mehdi Sebti, les 6 stations, alors qu'on a un tourisme qui ralentit, on a des revenus publicitaires, des revenus touristiques qui sont en train de se tarir, qu'est-ce qu'on fait quoi, selon vous ?
Moi, je pense qu'il faut être proactif. Proactif, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis un entrepreneur de base, je suis en train de chercher des opportunités. Peut-être qu'aujourd'hui, le marché francophone est en ralentissement. Il faudrait peut-être se dire que dès aujourd'hui, nous commençons à convertir nos jeunes à l'anglais pour demain faire du BPO à l'anglaise comme ce que font nos amis indiens. C'est pas une limitation qu'on doit avoir qui est la limitation de la langue. On va pas dire parce qu'on parle français qu'on prospecte uniquement en France. Moi, aujourd'hui, quand je me déplace à l'étranger, j'ai beaucoup de gens, on le voit, il y a beaucoup de gisements de croissance au Moyen-Orient, en Asie, etc. Donc il faut la langue anglaise. Et donc il faut bien évidemment dès maintenant y réfléchir. Il y a beaucoup de choses à faire.
Moi, je voyais au niveau de l'infrastructure, dans tout ce qui est prévu dans les plans sectoriels, au niveau qu'est-ce qu'on fait? On continue à financer, l'État continue à financer, quitte à s'endetter pour financer la poursuite des différents plans sectoriels.
L'État est dans une logique entrepreneuriale. Je ne suis pas dans une logique d'investir pour faire des bouts locaux. Je suis dans une logique d'avoir un retour sur investissement qui soit, bien évidemment, quand je suis sur le plan d'un État, je ne cherche pas seulement la rentabilité financière, je cherche le sociétal, je cherche l'environnemental, je cherche le reste.
C'est-à-dire, je soutiens la hauteur.
C'est une vision idéale, ça. Dans la réalité, l'argent du contribuable doit bien être utilisé de façon efficiente et on n'a pas
toujours le risque. Juste pour peut-être éclairer aussi les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, ça veut dire vous considérez que l'État entrepreneur doit effectivement financer par exemple de l'infrastructure, qu'elle soit touristique ou autre, avec en échange, ne pas regarder que la rentabilité, mais dans une question d'emploi aussi.
La rentabilité est obligatoire, on n'en parle même pas aujourd'hui dans les conditions de gestion à l'international. On parle de rentabilité, c'est un prérequis indispensable.
Et compétitivité aussi.
Et bien évidemment, compétitivité. J'allais dire,
quand l'État investit, l'État en retour, il n'attend pas de la création d'emplois plutôt dans une situation aujourd'hui de crise économique et de crise sociale.
On ne peut pas aller aujourd'hui faire de la création d'emplois à fond perdu, bien évidemment que non. On peut pas aller aujourd'hui recruter 200 000 fonctionnaires à fond perdu, c'est inimaginable, c'est aller droit au mur. Je pense que l'idée, c'est d'avoir une réflexion, d'aller vers ce qui se fait aujourd'hui, par exemple, il y a des plans, le plan solaire marocain qui est dans un partenariat public-privé, il y a des choses intéressantes qui sont faites avec des montages financiers intéressants. Maintenant, il faut les concrétiser, il faut de la bonne gestion, il faut de la transparence financière dans la gestion, c'est des choses qui sont fondamentales, me semble-t-il.
Azim Sabata, sur le président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, sur tous ces plans sectoriels qui ont été lancés et initiés, vous considérez qu'il déjà, comment vous les appréciez? Et est-ce que vous considérez que l'État doit continuer à soutenir financièrement ces plans sectoriels de manière à ce qu'ils arrivent à leur terme?
Oui, bravo au gouvernement d'avoir imaginé, d'avoir commencé ces plans sectoriels, effectivement. Maintenant, oui, je suis d'accord avec Yacine, dans le sens où quand on a commencé quelque chose, on est obligé... Quand on a passé le point de non-retour, il faut continuer, parce qu'il faut absolument rentabiliser ces choses-là.
Continuer en évaluant ou continuer sans forcément évaluer, se dire de toute façon on avait prévu ça, c'est ce qui était prévu dans le cahier de charge en 2005, et ensuite il faut aller jusqu'au bout, sans tenir compte forcément de la conjoncture, du contexte.
Non, bien sûr, prendre en considération la conjoncture, ça permet de réajuster les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on va abandonner complètement un secteur parce qu'il y a une crise passagère. Mais simplement, par rapport à la crise, je voudrais juste dire, là je voudrais parler en tant que dirigeant d'entreprise, la crise, on a un beau débat économique, on parle de balance des paiements, on parle de plan sectoriel, mais la crise, elle est au niveau de mon solde bancaire et au niveau de mon délai de paiement. Le dirigeant, c'est là qu'il voit. Il voit la crise à sa porte et seulement là. Il ne se pose pas la question d'où elle vient cette crise. Il se dit juste, mes délais de paiement fournisseurs sont extrêmes.
Là, c'est son quotidien en fait.
Avec c'est mon quotidien.
Avec ces contrats.
Oui, c'est Rachid, une petite précision. Il ne faudrait pas que l'État... Puisque l'État, il représente le peuple, le contribuable, c'est l'argent du contribuable. Il ne faudrait pas que l'État se substitue au privé et vienne jouer le pompier de service pour prendre les pertes sur les projets. Et donc, quand ça marche, les profits, c'est pour les intérêts privés. Et quand ça ne marche pas, l'État serait le pompier de service pour reprendre ou injecter de l'argent dans des projets qui ne marchent pas. Je veux dire, il faut extrêmement attentif. Effectivement, on est tous pour promouvoir l'investissement, surtout sur un secteur clé qui est le tourisme. Mais il faut le faire de manière à la fois transparente et efficiente. Pourquoi ? On a vu récemment l'État, via des bras armés, des organes, des filiales, intervenir pour sauver des opérateurs privés sur telle ou telle station.
Station touristique ?
Oui, station touristique. On l'a vu au sud, on l'a vu au nord, reprendre des terrains, reprendre... Tout ça, le contribuable, il se demande un petit peu à quelles conditions c'est fait, pourquoi c'est fait.
Pourquoi on ne va pas consulter,
exactement.
C'est ça
et pourquoi pas, mais c'est l'argent. Écoutez, on va terminer l'année avec un déficit de 75 milliards de dirhams. On va terminer à moins 6, moins 7 au niveau du déficit budgétaire. L'État marocain n'a plus d'argent. Et il est endetté. Si on additionne l'endettement de l'État et l'endettement des collectivités locales, on est à plus de 70%. Ça, c'est une réalité. Donc, effectivement, si on intervient pour secourir le privé, il faut le faire de manière transparente et à des conditions claires, gagnant-gagnant.
Loumla ?
Alors, moi, je vais revenir sur les plans sectoriels. Ouais. En fait, surtout l'offshoring et le tourisme. Actuellement, dernièrement, on a entendu parler de la délocalisation des centres d'appel. Avant, c'était un centre pour l'emploi, etc. Moi, ce que je reproche à l'État, c'est que dès qu'elle voit un secteur qui est porteur, elle se met, mais elle n'a pas une vision à moyen et long terme, comme quoi, d'ici là, et d'ici quelques années, il y aura par exemple une crise ou une délocalisation ou quelque chose.
Ça veut dire anticiper, en fait
Anticiper et ne pas concentrer tous les efforts, tous les fonds, etc., sur ces secteurs-là. Non, il faut diversifier. Il y a l'agriculture. Depuis qu'on a commencé à travailler sur l'offshoring et le tourisme, on a complètement oublié et ignoré l'agriculture, la pêche, etc., etc. Donc là, c'est un vrai problème.
C'est vous dire, en fait, que quelque part, on a mis le paquet, on a mis beaucoup d'argent sur
la tertiarisation
de l'économie via les services et qu'on a délaissé en fait des
tout
activités.
Tout à fait, maintenant on encaisse. Maintenant il y aura des chômeurs qui vont sortir de ces centres d'appel. Quel est le plan B qu'on a préparé pour ça?
Oui, le plan B, justement, le blanc mais on va poursuivre là-dessus parce que je crois qu'il y a un débat aussi un peu philosophique aujourd'hui par rapport à tous ces plans sectoriels. La situation financière de l'État, on la connaît. Elle est difficile aujourd'hui et pourrait s'aggraver d'ailleurs dès demain. Est-ce que seriez-vous favorable à ce que l'État continue à s'endetter pour le financement de ces plans sectoriels?
Alors,
ou
non.
Pas
non. Non, non. L'État doit arrêter. L'État doit arrêter de faire le rôle de l'investisseur. Elle peut faire les grands investisseurs comme les autoroutes, etc. Mais pour l'autre investisseur, non. Il faut ouvrir le marché pour les autres entrepreneurs, pour les autres investisseurs.
Pour le secteur privé.
Exactement.
Laisser la place,
exactement.
Beaucoup plus de place au secteur privé.
Oui.
Mehdi Septi, membre du comité exécutif de l'Agence des économistes de l'Istiqlal. Là, c'est vraiment juste... s'il y a aussi peut-être avoir une position tranchée, me semble-t-il, aujourd'hui. Alors, par rapport à la situation financière de l'État.
Oui, nous, à l'Alliance des économistes, on arrive avec une idée claire.
Le financement des plans sectoriels.
Juste pour essayer de corriger un peu cette notion de s'endetter pour sauver le privé, ou bien, pour reprendre le terme de mon collègue en face, secourir le privé. Peut-être. Il n'est pas question de secourir le privé. On parle d'intérêt national. Les politiques publiques qui n'œuvrent pas à créer de l'emploi sont de mauvaises politiques publiques. Aujourd'hui, d'un point de vue macro,
ça veut dire que justement par rapport au propos de Yacine Mekong tout à l'heure, l'État investisseur ne doit pas chercher la rentabilité,
il doit chercher la
création d'emplois et
de richesses.
Équationner en fait l'investissement public avec la création d'emplois.
Je vous donne juste un chiffre pour essayer de corriger un peu les dits et les non-dits. Aujourd'hui, un projet de loi de finances, on parle aujourd'hui pour 2013, 180 milliards de dirhams de budget d'investissement, y compris les établissements publics, etc. Est-ce que vous savez que chaque année, il y a du report, c'est-à-dire la réalisation d'une loi de finances? Bon. Ça tourne d'année en année à 60-70%.
Alors si on reporte clairement, c'est moins bon.
C'est-à-dire que l'argent qui est dédié,
170 milliards de
l'argent public,
la loi de finances 2012 n'est pas utile. Totalement
l'argent public qui est dédié à l'investissement n'est pas à 100% consommé. Sur les 188 milliards de l'année 2012, on va peut-être finir l'année à 100 milliards, donc il va rester 80. Qu'est-ce que nous on dit? On dit que l'année prochaine, pour essayer de générer du chiffre d'affaires à l'export et sauver la situation actuelle où nous sommes aujourd'hui sur un, on l'a dit au mois d'août, vous avez assisté à la conférence, un accident macroéconomique urgent.
C'est Adil Douali d'ailleurs qui l'avait dit.
Oui,
ici
notre
même,
président, là-bas. Exact. Alors cet accident macroéconomique urgent, il concerne quoi? Eh bien, il concerne le déficit extérieur. La balance des paiements, si on n'arrive pas à générer des industries qui génèrent du chiffre d'affaires à l'export, il nous manque aujourd'hui, d'année en année, entre 50 et 60 milliards de dirhams pour rééquilibrer cette balance des paiements et ne pas revivre le scénario catastrophique des années 80.
Alors,
on était tous jeunes autour de cette table.
Et le plan d'ajustement structurel.
Voilà, 1983, le FMI, La dévaluation du dirham est un exemple. Une voiture qui coûte 200 000 dirhams, on va la payer 300 000. Donc aujourd'hui, on dit qu'il faut soutenir les secteurs comme les stations azur, comme l'offshoring, terminer ces secteurs d'activité, quitte à intervenir directement.
Mais il n'y a pas
si ça a des répercussions sur l'emploi
mais
et que ça va générer de l'emploi,
une
tant
question
mieux.
Très naïve que pourrait d'ailleurs se poser éventuellement à certains auditeurs, c'est pourquoi avoir recours à l'emprunt. On a vu que le Maroc a sollicité le FMI, s'apprête là ce mois-ci à lever à peu près 10 milliards de dirhams sur les marchés internationaux, et que quelque part avoir se dire voilà, on a une loi de finances qui budgétise ou qui dégage une enveloppe de 180 milliards de dirhams qu'on n'utilise pas et qu'on ne consomme pas.
Là, c'est Rachid, là on parle de devises.
Non, mais
moi je vous parle en dirhams.
Oui.
Les 180 milliards, c'est du dirham. Oui. La levée de fonds internationale sur laquelle le ministère des Finances est en train de préparer,
oui,
elle concerne le milliard de dollars.
Oui, ça fait à peu près 10 milliards de dirhams.
Dollars, oui, pour rééquilibrer et se permettre de continuer à importer nos importations. Le blé, les céréales, le pétrole, etc., etc. Il y a une notion de levée de fonds à l'international pour avoir des devises,
oui,
pour continuer à avoir la quantité de devises pour importer. Et la notion d'investissement public.
C'est quand même dingue. Je compte sur vous d'ailleurs pour m'éclairer là-dessus. C'est se dire voilà, il y a 180 milliards de dirhams qui sont mobilisés. On n'en utilise que 100 milliards. Il y a à peu près 80 milliards qui restent. Et de l'autre côté, on va s'endetter et emprunter sur le marché international.
Non, mais ce que dit pas Monsieur Septi, c'est que sur ces 180 milliards, une bonne partie, et la provenance d'une bonne partie des 180 milliards qui sont investis chaque année dans le budget, c'est de l'emprunt. C'est-à-dire une bonne partie. Aujourd'hui, près d'un tiers du budget de l'État, c'est de l'emprunt. Mais quand vous dites ça, en fait, vous représentez un parti qui est très honorable, mais M. Doury, quand il était aux affaires, il n'a pas prôné la rationalisation de la dépense publique et du budget de l'État. À l'époque, on aurait pu faire des économies pour, au lieu d'avoir des budgets de fonctionnement et des dépenses sur la masse salariale et le train de vie de l'État, on aurait pu faire une rationalisation efficace de façon à investir sur les générations futures,
dans notre
tissu industriel, etc. Ça n'a pas été fait.
Vous citez le secteur du tourisme. Je vous ai dit la commande du secteur du tourisme entre 2002 et 2016.
La situation
économique n'était pas la même.
Là où on ne s'entend pas, c'est que vous avez une vision d'un État toujours plus gros qui vit au-dessus de ses moyens. Moi, j'ai une vision effectivement de l'investissement pour préparer la relève, la création de valeur, la création de valeur ajoutée, les emplois de demain, mais pas au prix d'un emprunt qui va grever les générations futures. On n'a pas d'argent. On ne peut pas vivre indéfiniment, que le soit État, entreprise ou particulier, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens.
Est-ce que l'État vit au-dessus de ses moyens ? Et je serais curieux de savoir, Yassine Benkirou, votre conception, vous, de l'État, dans un espace économique, et l'espace économique, enfin, la place occupée par notre État dans l'espace économique.
Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a un vrai souci, c'est la vision que nous avons de l'État dans 10, dans 20 ans. Ça, c'est le vrai problème, le vrai point, j'allais dire, fondamental, c'est quelle vision. Parce qu'en fait, il faut bien voir une chose. Le projet de loi de finances, la loi de finances, finalement, on est en train de discuter de quoi dans les médias? Des 3%, des 25 000, etc. On ne parle pas de l'essentiel. Il y a tous les médias qui mettent ça à la une, on parle de ça, on crie à U et à Dia, alors qu'on nommait l'essentiel qui est quelle vision?
Je vais résumer rapidement.
C'est que aujourd'hui, une loi de finances, c'est comme un budget d'une entreprise. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. J'attire votre attention qu'il y a des multinationales dont le chiffre d'affaires dépasse le PIB marocain de loin. Donc, et qui sont très bien gérées, qui sont certifiées. Donc on n'est pas en train d'inventer la roue. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui à l'international. Des entreprises qui font 40 milliards de dollars chiffre d'affaires, ça existe. Apple, avec ses iPads, elle nous dépasse en chiffre d'affaires. Alors soyons déjà réalistes par rapport à ce que nous traitons. Je pense aujourd'hui, la loi de finances... Mais
est-ce que nous, on peut faire naître un Apple ? Étant donné la place et le rôle de l'État dans notre économie, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace, selon vous, Yassine Benkirou, pour faire naître des géants de demain ?
Aujourd'hui, je vous dirai tout à l'heure pourquoi on n'arrive pas à les faire naître. Parce qu'on n'a pas des PME qui sont transparentes, qui peuvent aller chercher d'autres marchés, parce que c'est un contexte. C'est aussi ça.
Est-ce que les PME ou est-ce que c'est l'État qui n'est pas transparent ? Marchés... On parle de quelle transparence ?
Je vais vous dire une chose.
Voilà, pour les marchés publics,
Il y a une partie qui est réservée au marché public dans la loi de finances 2013, 20%.
Si on part après sur les marchés publics qui sont à la transparence, malheureusement c'est un autre débat. Le débat aussi est intéressant, mais c'est un autre débat.
Là, c'est l'esprit des PME qui sont transparentes comptablement. Je ne peux pas imaginer une PME qui n'est pas transparente qui demain va aller conquérir des marchés à l'étranger et qui va être efficace. Parce que j'ai une confusion de patrimoine du dirigeant qui va acheter sa villa, qui veut la villa, qui veut la piscine, qui veut la Mercedes à 1 million de dirhams. Soyons honnêtes aussi. Aujourd'hui, quand on a un parc automobile tel que celui du Maroc,
qui est bien évidemment comparé à ce qu'on voit à Paris. On a un parc qui n'a rien à voir. On a des voitures à 1 000 000 dirhams qui sont taxées à droite de douane, qui sont ce qu'ils sont. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie orientation à donner, une vision. Le Maroc de 2020, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Ça, c'est la vraie question.
Pour vous, Yassine Mekarom, c'est quoi le Maroc 2020 avec un État qui soit moins présent dans l'espace
État
économique?
État moins présent, il faudrait absolument présent. Que nous soyons. Il faut bien voir une chose. La loi de finances aujourd'hui qui est au Parlement, n'oublions pas que nous sommes les électeurs. Nous sommes l'Assemblée Générale qui doit voter cette loi de finances, en réalité, si nous sommes dans une logique entrepreneuriale. C'est l'Assemblée Générale, c'est les citoyens qui doivent voter la haute finance.
On a fait confiance à des parlementaires, ils vont le faire à notre place.
C'est exactement
ils sont
ça.
Censés être les représentants du peuple.
Non, mais il y a toujours des considérations politiques.
On leur a donné cette chance. Bon, en espérant qu'ils nous représentent indignement. Ça, c'est notre débat. Mais j'allais dire.
Et par rapport à la première mouture, justement, de cette loi de finances 2013, est-ce que vous considérez que vous avez été bien représenté, Yassine Mekarom?
Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je pense qu'il nous manque aujourd'hui, c'est une vision. Une vision globale qui dise le Maroc, c'est quoi dans 10 ans? Et cette vision doit être partagée. Moi, j'étais la semaine dernière avec nos amis sud-coréens, dans le cadre du cinquantenaire des relations Corée du Sud-Maroc, et qui nous disaient une chose. Bah, c'est bien, vous avez des plans métiers monde du Maroc, vous avez des projets, c'est super ce que vous avez fait, mais vous êtes au début de ce que nous faisions dans les années 70. Il faut continuer, mais ça nous rappelle notre histoire dans les années 70, le projet. Les... Alors, ce qui était sympa un peu de voir de leur histoire, c'est que les Coréens, par exemple, quand on va à Séoul, dans des hobbies, on voit une vision. On gagne en 2020. Il faut communiquer ça. Il faudrait aussi que les médias jouent le rôle de ne pas rester dans le négatif, de communiquer à grande échelle du positif, de dire on a une vision commune, c'est-à-dire en 2020, tous les Marocains ont accès à l'éducation de qualité. Je rajoute très rapidement une chose. Aujourd'hui, l'éducation qui nous paraît la mastodonte, le mammouth qu'on ne peut pas gérer, il faut bien voir une chose. Moi, j'ai toujours proposé, je continuerai à le proposer, de faire une scission du ministère de l'Éducation nationale. Il faut faire une scission et créer une entité juridique, une SA qui gère la logistique, etc. Des choses qu'on peut faire.
Privatiser le ministère de l'Éducation nationale,
une SA de droit public. De droit public, bien évidemment. Il faut trouver des choses innovées et aller de l'avant.
Nous donne l'occasion d'ailleurs, par transitivité, de passer sur la loi de finances aussi. On a fait référence à...
C'est Rachid, juste sur ce terme-là d'absence de vision, c'est important de ne pas laisser passer ça.
Oui, mais dis-tu.
Quand on dit on n'a pas de vision, que vous sentez, vous, les opérateurs, dans différentes entreprises, qu'il n'y a pas de vision, moi je voudrais juste corriger un petit peu cette notion-là. Le gouvernement, en préparant le projet de loi de finances 2013, avait le choix entre deux options. Et bien, il en a choisi une troisième, je vais quand même rappeler les deux. La première, c'est un plan d'austérité, puisque nous sommes dans une crise.
Plan de rigueur.
Bah oui,
réduction, réduction des dépenses publiques.
On voit ce que ça fait en Espagne, au Portugal, en France, les grèves, le machin,
de l'impôt,
catastrophe.
Ouais. Non, mais ça se traduit.
Plan d'austérité, on n'a pas choisi.
Parce que c'est important, vous avez ouvert un chapitre qui est intéressant. S'il y avait l'option 1, l'option A, plan d'austérité, ça se traduit par quoi et comment?
Baisse des salaires, augmentation de la TVA, baisse des revenus des retraités, etc. On n'est pas dans cette configuration-là. Bon, on n'a pas choisi un plan d'austérité, on n'a pas non plus choisi une croissance endogène uniquement sur l'augmentation du budget de l'investissement public. Le gouvernement et le ministère des Finances, Nizar Baraka, puisque ma collègue de droite en parlait tout à l'heure.
Quoi, je vous suis, parce que moi je ne suis pas économiste. Donc l'option B, c'est quoi? Ça veut dire...
C'est la croissance endogène, c'est-à-dire que de l'investissement
financé
public.
Financé par l'État et par l'endettement
et par le crédit.
Que
de l'investissement public.
Par le crédit.
Ce qu'on a fait depuis les années 2000. Donc on a fait de la croissance endogène.
Emprunté pour investir.
Un modèle de croissance basé sur la consommation.
On n'a pas choisi non plus cette deuxième option. Le gouvernement et surtout le ministère des Finances a choisi une troisième. Et c'est là où je voudrais m'attarder sur la vision de ce projet de loi de finances 2013. C'est une vision volontariste avec une idéologie qui est claire, une croissance sociale et solidaire et une maîtrise des indicateurs macroéconomiques.
Voilà. En clair, là aussi, de manière synthétique,
c'est ça autrement, c'est un manque de courage, c'est tout.
Non, pas du tout, c'est une vision.
Parce que c'est intéressant sur l'option C, puisque c'est l'option qui a été optée, enfin qu'a opté le gouvernement.
C'est comme ça que je la lis,
Tout à fait, donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, je vais faire du solidaire économique, de l'économie solidaire, ça on a compris.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, nous étions à Hizb Sirlal, les premiers à défendre le projet de fonds de cohésion sociale en 2012. Alors ce fonds de cohésion sociale, il existe.
C'est pour le social, mais je veux dire le modèle de croissance économique. Est-ce qu'on maintient le modèle de croissance économique basé sur la consommation et sur le crédit, ou est-ce qu'on se dit, voilà, on va rediriger l'investissement public, refixer un cap?
On peut faire les deux. Tout dépend du
prioriser le secteur industriel ou autre.
Tout dépend du curseur, où est-ce qu'on le met. Aujourd'hui, on dit que, compte tenu de ce qui se passe, une économie sociale et solidaire avec une maîtrise des indicateurs macroéconomiques s'imposent. Ce projet de loi de finances 2013 est dans cette direction-là. Le fonds de cohésion sociale, je voudrais vraiment insister sur ça, parce que ne voudrait pas taxer ni les entrepreneurs, ni les salariés, ni les partis politiques de ne pas faire de social. Tout le monde fait du social aujourd'hui. Vous avez
c'est
reçu...
C'est pas sur le reproche, on leur semble simplement de taxer la classe moyenne, d'ailleurs, peut-être qu'on va y revenir.
Oui, mais c'est un débat aussi... C'est un débat philosophique aussi, là.
C'est aussi effectivement
alors, ce qui est important, le fonds de cohésion sociale, c'est quelque chose de très important. Hezb Sehlal, je le disais, a été le premier à le proposer. C'est une idée du parti des Sehlal. Déjà en 2012, grosso modo, c'est quoi? C'est Teissir, par exemple. Les 210 dirhams par famille par mois pour
scolariser
les enfants dans le rural. Dans le rural. C'est un choix politique, c'est un choix idéologique. Ce projet de loi de finances a au moins aujourd'hui une vision claire.
Ce qui m'importe, c'est faire tourner l'économie. En fait, quel modèle de croissance économique?
Il y a des mesures.
Est-ce qu'on continue à être sur le modèle de croissance économique basé sur la consommation?
Si vous permettez, moi, je voudrais juste rappeler un point, peut-être avant de parler de la loi de finances 2013, mais parler de l'objectif. Aujourd'hui, quel est notre objectif? J'ai jamais entendu un homme politique marocain nous dire à quelle date nous voulons atteindre un PIB par habitant de 15 000 dollars. Il faut donner des objectifs chiffrés. Il faudrait déjà qu'on soit concret pour... Comme un entrepreneur, vous êtes dans une entreprise, vous dites mon chiffre d'affaires en 2015, business plan sur 5 ans, qu'est-ce que je fais?
Les plans sectoriels étaient chiffrés.
Était chiffré, mais je parle globalement.
Vision 2010, vision touriste.
Je voulais qu'on détache un peu aussi de l'approche sectorielle sur aujourd'hui.
Je parle d'une vision globale, de dire quand est-ce que nous voulons atteindre les 15 000 dollars par habitant dans 10 ans, dans 5 ans, et comment on y arrive. Et qu'on bâtisse une stratégie pour y arriver. C'est un peu ça aussi, je pense, l'idée, et de communiquer sur ça de façon à grande échelle. Je pense que c'est le vrai débat aussi qu'il faudrait.
Adam Fadel, sur le modèle, la loi de finances 2013, est-ce que le modèle de croissance économique, est-ce qu'il y a cette loi de finances 2013 a permis de mieux appréhender un modèle de croissance économique qui pourrait se dessiner dans les prochains mois, voir les prochaines années.
Non, pas du tout. Moi, je suis moins optimiste.
Est-ce que la loi de finances a vocation à mettre en relief aussi un modèle de croissance, voire
bien sûr, d'autant plus qu'on en est en crise. Ce n'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise grave, structurelle, qui va encore perdurer. On voit bien en Europe aujourd'hui les grandes questions qu'il y a autour des enjeux de compétitivité coûts, compétitivité innovation, produits. Et on voit bien aujourd'hui toute l'effervescence qu'il y a en France, qu'il y a en Espagne, qu'il y a en Italie. Et ça, on ne le ressent pas ici. On a l'impression d'une loi de finances comme si tout allait bien, une loi de finances intermédiaire, tiède, un petit peu pour tout le monde, un petit peu populiste aussi, en tapant à travers la taxe de 3 à 5% sur les classes considérées comme aisées. Et en s'attaquant pas au fond du problème. La lutte contre l'informel, la taxation de l'agriculture, la rationalisation des dépenses publiques. On a aujourd'hui...
Taxation pour l'agriculture, taxation aussi pour l'immobilier, vous préférez
le maintien des exonérations fiscales. L'immobilier est déjà taxé, c'est simplement le logement social qui bénéficie des dérogations, mais à la rigueur, tant qu'il est efficace et tant qu'il permet de régler des problèmes de promiscuité, des problèmes de tension sociale, de logement, le logement est un droit fondamental. Donc, à la rigueur, là, on voit bien que nos entrepreneurs sont efficaces.
Mais moi,
on n'a pas, à travers cette loi de finances, alors que la situation est grave, on n'a pas, si vous voulez, de cap en termes de réflexion sur le modèle de développement actuel. On voit bien actuellement que le modèle de développement basé sur la consommation, sur l'endettement, sur la demande intérieure, mais en fait, qui n'est pas basé sur la création de valeur, c'est ça le plus grave. Ce modèle-là est arrivé au bout du bout et on ne voit pas de vision pour un renouvellement ou pour un autre cap ou pour une autre direction. Et d'ailleurs l'investisseur marocain est quasiment absent.
On va essayer de voir aussi.
Et la fiscalité n'est pas traitée.
Le profiler de l'investisseur aussi, du marocain. Hazim Sebata, président du CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, par rapport un petit peu tout ce qui a été dit, cette loi de finances 2013. Justement, parce que je sais que vous avez réagi il y a quelques jours, d'ailleurs, chez nos confrères de l'économiste, par rapport à la surfiscalisation de 3 et 5% pour les revenus à partir de 25 000 dirhams et des revenus, bon ça c'est 3% et 5% pour les revenus à 50 000 dirhams. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, que le vrai débat il est là? Ou est-ce que le débat est ailleurs, comme l'a d'ailleurs esquissé, me semble-t-il, Yacine Benkeroum tout à l'heure? Est-ce que le vrai débat, ça va être de dire aujourd'hui, on met à plat notre modèle de croissance. C'est quoi notre modèle de croissance? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nos atouts? Vers quoi on va? Perspective? Un cap? Et ce qu'a dit également Yacine Benkeroum, c'est se projeter aussi sur Maroc 2020.
C'est justement parce qu'il n'y a pas de contenu au débat qu'on pointe le doigt sur...
Il y avait que ça, en fait.
C'est la seule chose sur laquelle on peut parler. Tout le reste est exactement la même chose qu'avant.
Pourtant, il y a 127 pages, regardez, moi je l'ai la semaine.
Je l'ai lu également, tout est dans la continuité. Il y a ce point-là qui a attiré l'attention des gens, il y a ce point-là, et pourtant c'est un point qui concerne combien de personnes? Un peu plus de 15 000 personnes?
38 000. C'est à peu près 17 000, on ne va pas jouer un peu sur les chiffres.
Qu'est-ce que ça?
Population extrêmement minoritaire, mais qui est le moteur de consommation, du pouvoir d'achat et du crédit d'ailleurs. Bon client pour le crédit.
Il y a un chiffre qui est annoncé dans la loi de finances, comme quoi ça rapporterait 500 millions de dirhams. Là, depuis tout à l'heure, on ne parle que de milliards, et là, on ne parle que de 500 millions de dirhams. Et pourtant, c'est le débat qui a fait le plus de... qui a fait couler le plus d'encre. Et puis, c'est 500 millions de dirhams. On parle de 500 millions de dirhams. Certains confrères parlent, confirment ces chiffres-là, mais quand vous regardez dans la loi de cadrage de cette loi de finances, elle ne parle que de la... On ne paye 3% que de la fraction qui est au-delà des 25 000 dirhams. Autrement dit, on va payer chacun peut-être 200 dirhams, 100 dirhams, 400 dirhams. On parle de peanuts, excusez-moi le terme. Je paye beaucoup plus.
Vous savez que les 500 millions de dirhams auxquels vous venez de faire référence sur ce que pourrait générer la surfiscalisation des revenus, c'est pour alimenter ce fonds de solidarité
qui a évoqué le ministre Sopti,
donc qui serait doté de 2 milliards de dirhams. Donc
l'apport de
la surfiscalisation des hauts revenus serait de 500 millions de dirhams dans les 2 milliards de dirhams.
Selon nos calculs, ce ne sont pas 500 millions de dirhams, ce sont 40 millions de dirhams. Je vous choque. On a une multiplication à faire, c'est simple. On prend ces 14 000 ou ces 30 000 personnes, on multiplie par le pourcentage au-delà des 25 000 ou des 50 000.
Il faut faire confiance au cadre des finances, ils annoncent un chiffre.
Pour savoir si c'est le vrai débat ou si le débat doit être ailleurs.
Justement, le débat, c'est-à-dire on nous dit c'est là qu'il faut parler, alors que parce qu'ailleurs il n'y a rien. On ne peut rien débattre d'autre. Ce qui nous gêne
au CGD... Il y a le surtout qu'on débat de tout. Hein. Si vous avez éventuellement des propositions aussi ou des...
Ce qui nous a gêné, en fait, c'est le message qu'il y a derrière. Ça veut dire, attention, chère population qui nous a élus, nous allons prendre aux riches. Et les riches, c'est eux. C'est-à-dire, c'est une stigmatisation d'une catégorie de gens qui travaillent.
Le débat n'est pas sur la lutte des classes. Non.
Tout
le monde a été orienté actuellement sur ça parce que certaines presses. Sur le sujet, bon, vous le savez bien, c'est Rachid, j'ai intervenu dans le support que vous avez cité la semaine dernière.
Ouais.
J'ai écrit quelques petites lignes, sur la taxation des hauts revenus. Alors, merci pour la précision, c'est ce bâtard. On ne taxe qu'après les 25 000, la fraction. C'est-à-dire que si vous touchez 25 000 dirhams ou la 25 200 dirhams,
on n'est pas taxé. Si on touche 27 000 dirhams, on est taxé sur 2 000 dirhams.
Sur 2 000 fois 3%, ça ferait, je sais pas moi, 125 dirhams, quelque chose comme ça.
D'ailleurs, je crois que Nizar Barakam, il serait en charge de l'économie des finances. Alors, moi, j'ai un paquet de cigarettes par mois. Pour les fumeurs?
De Gauloise, sans faire de marque. Le débat, c'est Rachid, il est intéressant ce que dit ce bâtard, c'est justement, tout le monde a parlé de ça. Eh bien, il ne faut pas parler de ça, il faut parler aussi d'autre chose. Ce projet de loi de finances est venu aussi avec des mesures. J'apprécie ce que vous venez de dire, M. Mfadal, sur l'informel, la lutte contre l'informel. Comment vous qualifiez cette mesure de ramener l'IS de 30 à 10% pour les sociétés qui vont effectuer moins de 200 000 dirhams de résultats nets? C'est bien une lutte contre l'informel. Comment on peut faire passer ces entreprises, Minat Dolomati et Lannor?
C'est pas la première tentative aussi de mise en place de dispositions fiscales.
Et ouais, quitte en rien.
On parle de 45% du PIB qui est informel. On parle de 45% du PIB.
Vous êtes des entrepreneurs.
Cette mesure-là, cette mesure
disciplinée et courte. Et vous savez qu'on a une seule dame qui est là et donc qui aussi voilà.
Heureusement que l'entreprise
qui souhaitait réagir.
Alors moi je vais rebondir sur le débat. Où est le vrai débat? Moi cette question, cette idée de faire le fonds de cohésion sociale, de solidarité sociale me dérange. Prendre de l'impôt pour distribuer, ça me dérange beaucoup. Pourquoi ne pas aller pour créer de la valeur, pour apprendre à ces gens-là qui sont dans le milieu rural, maintenant nous sommes dans le plan vert, il y a l'écotourisme, il y a beaucoup de choses à faire, et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'ici pour pas distribuer là. Ça, c'est une erreur. On n'a pas une vision sur le long terme, on n'a pas une vision sur l'aide. On fait des trucs, des calmants pour...
On bouche les trous.
Exactement, pour faire passer des trucs, et voilà. Mais non, ça, c'est pas le vrai problème, c'est pas la vraie solution.
Concrètement, vous proposeriez quoi?
Il vient de parler de plan sectoriel, de l'éco, du plan vert. Il y a l'écotourisme, maintenant, qui est une alternative, très importante dans le cadre de l'économie sociale pour faire.
Par rapport à des urgences sociales.
L'urgence sociale, elle est là.
On fait quoi et on
ponctionne? Alors, on va poser une question autrement.
De la TVA.
On va poser la question autrement de son dirham. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour ces gens-là?
Déjà, de ne pas les laisser à la maison, les enfants.
Vous savez, dans le monde rural,
enfin, je suis sûr que la scolarisation...
Oui, oui, la scolarisation...
200 dirhams dans le rural, ça change une vie. Hein.
On va aller sur le terrain social, mais je voulais aussi sur le modèle de croissance économique, parce qu'on n'a pas défini quel modèle de croissance économique. Est-ce qu'on se complaît, Yacine Mekarom, sur un modèle de croissance économique basé sur la consommation et le crédit, ou fait passer à un autre
étape? J'avais d'abord rebondir par rapport au taux de 10%, parce que nous avons beaucoup bataillé depuis 2008-2007 pour qu'on ait un taux de d'IS réduit pour la PME, et on a eu finalement les 15%. Je voulais juste dire, c'était pour Canou déjà, mais depuis 2011.
Là, sur
depuis
le 2011 d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, 3 millions de dirhams.
Je vais vous dire, je vais vous expliquer.
Non, c'est 200 000 dirhams.
Ça a été corrigé, parce qu'on sait très bien que sur 3 millions de dirhams, il y a certains entrepreneurs qui ont été tentés de faire 2 999 000 et de créer notre entreprise.
Oui, ça sera pareil pour le
résultat. Ça sera pareil pour le résultat, ça sera pareil.
Ça, c'est des entrepreneurs futés, ça.
Par contre, moi, je pense que l'idée qui est importante...
Futé, mais pas citoyen.
L'idée qui est importante dans les 200 000 dirhams, je pense que c'est une mesure qui est limitée. Je pense qu'il est important, c'est de donner une vision fiscale aussi à un investisseur. Aujourd'hui, il y a des investisseurs qui se sont lancés parce qu'ils avaient le 15%. Aujourd'hui, on change leur modèle. Je pense qu'il faudrait dès le départ se dire, quand je suis...
Visibilité, stabilité fiscale.
Stabilité fiscale. Aujourd'hui, un investisseur qui vient au Maroc, si demain vous lui dites, aujourd'hui c'est 15%, demain c'est 2%, demain c'est 30%, j'ai pas de visibilité fiscale. Moi, je suis pas d'accord sur les 200 000 dirhams, mais je vais vous dire parce que on va commencer encore une fois à jouer sur les 180 000, etc. Et donc, ça sera pas. Moi, je pense qu'il voudrait plutôt aller peut-être dans le... Je ne suis pas d'accord avec le barème du CES, qui a publié un barème progressif pour l'IS, qui a publié un rapport sur l'effort fiscal. Je pense qu'il faudrait aller néanmoins dans l'esprit de la progressivité de l'IS. Et bien évidemment, en ne donnant pas cette mesure, j'allais dire de façon comme un chèque à blanc, mais essayer de mettre en place de la transparence. Aujourd'hui, nous sommes commissaires aux comptes quand nous dépassons 50 millions de dirhams chiffre d'affaires. Est-ce qu'on ne peut pas baisser à 10 millions de dirhams? Je ne suis pas dans une logique corporatiste.
Il faut assister aux assises de la fiscalité en février.
On y sera.
Il faudra plus de transparence financière.
Bien évidemment. Je pense que si vous avez aujourd'hui... Je vais vous rappeler une chose. Quand il y a eu changement de la loi sur la SA, on est passé vers les commissaires aux comptes. Toutes les SA, bon, une bonne majorité, sont transformées en SARL pour éviter les commissaires aux comptes. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi prendre le taureau par les cornes et dire 10 millions de dirhams chiffre d'affaires, vous aurez les commissaires aux comptes, vous allez avoir une obligation de transparence, etc. Et le commissaire aux comptes a sa responsabilité, etc.
Mais moi, je voulais... Oui, peut-être, Ron Fadel, qu'on revienne un petit peu sur le modèle. Parce qu'on,
oui, voilà.
Le modèle de croissance économique aujourd'hui, il doit reposer sur quoi? Est-ce qu'on continue à être sur un modèle de croissance basé sur la consommation et le recours au crédit et à l'endettement, ou il faudrait qu'on passe à autre chose nécessairement?
Moi, je l'ai dit au début de l'émission, pour bien comprendre les enjeux liés au débat actuel sur la loi de finances, il faut comprendre la crise actuelle. Si on n'arrive pas à comprendre que c'est une grave crise, à la fois conjoncturelle, mais aussi structurelle de notre modèle de développement, et qu'elle va durer, et qu'elle va s'aggraver, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi les opérateurs économiques restent un peu sur leur faim par rapport à cette loi de finances. Aujourd'hui, il y a besoin d'un choc de compétitivité. Il y a besoin d'un choc de compétitivité au niveau fiscal. Au niveau fiscal, aujourd'hui, le Maroc n'est pas compétitif. Le Maroc n'est pas compétitif. Le Maroc n'est pas attrayant.
On est trop cher fiscalement ?
Bien entendu. D'ailleurs, l'ensemble des opérateurs qui viennent pour un certain nombre de plans industriels liés au programme émergence viennent parce qu'il y a des conditions dérogatoires au droit commun, donc des conditions privilégiées fiscales qui font qu'ils viennent, sinon ils ne viendraient pas. Mais l'opérateur marocain...
Ça veut dire quoi ? Il y a une équité fiscale aussi entre l'investisseur marocain et l'investisseur étranger ?
Bien entendu qu'aujourd'hui, il faut aussi comprendre pourquoi l'investisseur marocain n'investit pas. C'est très grave. Et on ne s'en sortira pas uniquement par l'investisseur étranger. Si l'investisseur marocain aujourd'hui n'investit pas dans des programmes de long terme, dans des programmes de création de valeur,
l'investisseur et l'investissement,
le Maroc ne se développera pas. Et actuellement, dans cette loi de finances, on n'a aucune visibilité, on n'a aucun, si vous voulez, aucun attrait pour les investisseurs réels, investisseurs industriels, investisseurs long terme.
Parce que les investisseurs réels, les investisseurs virtuels.
Non, mais bien entendu, parce que les investisseurs, comme on disait, boursiers, il y a des investisseurs, investisseurs dans la pierre, il y a des investisseurs sur l'appareil productif.
Hazim Sebatta,
oui.
Président du CDI, le Centre des jeunes dirigeants, est-ce que cette loi de finances, pour vous, elle est en adéquation avec la réalité économique d'aujourd'hui et celle de demain? Ou elle est sans... Parce que Radon Fadel fait référence en disant, voilà, c'est une loi de finances qui ne colle pas forcément à une réalité.
C'est difficile d'en parler, même si Fadel disait, elle est tiède, j'ai envie de dire, elle est neutre. Enfin, c'est difficile d'en parler de cette loi de finances, j'ai l'impression que je suis en train de me répéter.
Le
fonds de la cohésion sociale, par exemple.
Effectivement, juste, loi de finances 2013, c'est celle qu'on a sous les yeux, c'est celle qui est en débat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a de différente par rapport à celle de 2012, par exemple, ou celle de 2011, ou celle de 2010 et celle de 2009?
Mais c'est ça que je cherche.
Des différences.
Mais justement, c'est ça que je cherche. Ce sont ces différences-là que je cherche. Et en fait, il faudrait juste, vous connaissez le jeu des 7 différences. Il faudrait les mettre l'une en face de l'autre pour trouver les différences. Une loi de finances, quand nous sommes en période de crise, quand nous avons un nouveau gouvernement qui est attendu, les différences doivent nous sauter aux yeux. Elles n'y sont
qu'est-ce
pas.
Qu'est-ce que vous regrettez en fait que vous ne trouvez pas dans cette loi de finances 2013
Réduction
des dépenses, par exemple.
Lumna
Réduction des dépenses.
Réduction des dépenses publiques.
Oui.
Et donc le plan d'austérité.
Oui.
Et donc un ralentissement de l'activité économique.
Ralentissement d'activité.
L'État est tellement présent dans l'espace économique, je me dis moi.
Il n'est pas le seul acteur économique dans le pays, ça, il faut le comprendre.
On peut rationaliser, on peut descendre.
Ça, c'est intéressant. Oui,
non, il faut aider les investisseurs. Il y a les investisseurs marocains, il y a les investisseurs étrangers. Il ne faut pas oublier la tournée de Sa Majesté dans les pays de Golfe, là. Maintenant, il y a des investisseurs qui vont venir. L'État doit comprendre qu'il n'est pas.
Qui ont promis de venir.
Oh, qui ont promis de venir, je crois que le voyage de Sa Majesté était une garantie, puisqu'il y a un manque de visibilité, etc. Là, chaque investisseur, il a besoin de garanties. Surtout maintenant que nous sommes en absence de visibilité, quand vous venez de dire que la loi de finances ne représente rien, il est pareil que 2012, que 2001, il n'y a pas de différence. C'est comme si on n'a pas de crise, dépenses, on a...
Qu'est-ce qu'on... Yacine Benkaoum, qu'est-ce que vous regrettez dans cette loi de finances 2013 qui ne figure pas et qui aurait dû figurer au vu de la conjoncture?
Moi, je pense qu'il y a aussi, encore une fois, cette question de vision qui soit claire, qui dise on va vers où on va.
Est-ce que la loi de finances a vocation à faire des projections,
je vais me permettre une chose. Oui. Nous sommes aujourd'hui avec un parti qui est à la tête du gouvernement, qui est majoritaire, qui normalement devait instaurer le fonds Zakat. Aujourd'hui, on ne le voit pas au niveau de la loi de finances.
Le fonds de solidarité de 2 milliards de dirhams, c'est pas un peu...
Mais dans l'esprit qui a été en tout cas présenté au départ, il faudrait qu'il y ait ce fonds, qu'on dise au moins qu'on ait une orientation qui soit claire.
Il faut imposer l'impôt sur la fortune. Il faut imposer l'impôt sur la fortune. Oui,
justement, par rapport à ce qu'on aurait voulu trouver dans cette loi de finances, par exemple, s'attaquer à des vraies niches fiscales. Monsieur Faudel parlait tout à l'heure de l'agriculture. Oui, on sait que les agriculteurs ne payent pas d'impôts et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que c'est de l'argent qui devrait rentrer dans les caisses de l'État.
Et pourquoi on ne s'est pas attaqué selon vous?
Il manque du courage politique. Ce sont des lobbies, tout simplement. Il faut le dire. On s'attaque pas aux rentes. Bon, on est en train de publier des listes, d'accord. C'est sympa.
C'est
de la poudre aux yeux pour le moment. Mmh. C'est sympa. Puis il y a certaines personnes qui sont pas contentes. Oui, mais au-delà. Et les rentes continuent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que
et
moi,
débat,
investisseur,
pourquoi et le moi, débat, Hazim Sebata va continuer jusqu'à 15h30 sur Lux Radio. Et j'accueille Zina Belariti, vous avez pu noter qu'elle nous avait rejoint. Lula Kérôme n'est plus isolé. Hein, vous êtes deux. Hein,
je suis venue en renfort.
Oui, Zina Belariti, donc chroniqueuse à Lux Radio. Zina Belariti, bonjour.
Bonjour Rachid, bonjour et bonjour à nos invités.
Avec ou sans parure, la 60e minute avec Zina Belariti.
En fait, je voudrais qu'on s'intéresse de plus près au climat des affaires et à l'investissement, qu'il soit marocain ou étranger, mais plus particulièrement à l'investissement étranger et à la manière justement de le faire arriver chez nous. On sait que lorsqu'une entreprise veut s'implanter à l'étranger, elle a besoin d'avoir des informations claires sur le climat d'affaires du pays avant de prendre sa décision. Par exemple, quel est le nombre de chômeurs? Y a-t-il beaucoup de corruption? Quelles ont été les dernières réformes menées pour attirer plus d'investisseurs dans le pays? Alors, comme l'explique le consultant spécialisé dans la promotion des investissements et l'amélioration du climat d'affaires, Eroun Gouboroun, sur Alkara TV, en règle générale, un investisseur prend en compte deux paramètres, la stabilité politique, qui constitue un des principaux atouts du Maroc, et le climat des affaires, dont la poursuite de l'amélioration est aujourd'hui pour nous un impératif, comme vous l'avez tous dit, pendant la première heure de l'émission. Donc on écoute Eroun Gouboroun et on en discute tout de suite après.
Aujourd'hui, on vit dans un monde, comme je le disais tout à l'heure, mondialisé, notamment au niveau de l'information, au niveau des médias. Donc l'information est véhiculée partout. Et donc dès que l'image d'un pays se dégrade, forcément ça a un impact. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, quelle est la nature de l'investissement dans le pays? Par exemple, il y a des pays qui sont très à risque, mais ce sont des pays qui ont des ressources naturelles comme le pétrole ou les minerais, etc. Et donc là, les investisseurs vont y aller. Peu importe, donc les risques sont vraiment pris en compte. Mais sinon, dans d'autres types d'activités, de production, de services, etc., l'image du pays, la stabilité du pays est un élément fondamental. Est-ce que c'est un pays qui est stable? Est-ce que c'est un pays qui est sûr? Est-ce que c'est un pays où, quand je vais mettre mon argent, eh ben, je vais pouvoir demain en récupérer les bénéfices? Quels sont les risques associés au pays? Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième chose, regardez les facteurs, on va dire, intérieurs. C'est-à-dire, est-ce que effectivement, pour lui, il sera facile de démarrer une activité, il sera facile de démarrer une entreprise? Donc, quelle est la complexité administrative pour effectuer une activité dans ce pays? Et puis, troisièmement, il va probablement regarder l'infrastructure qu'il y a dans le pays. Quand je dis l'infrastructure, évidemment, c'est l'ensemble de choses, télécommunications, routes, électricité, etc. Pour pouvoir faire ça, attirer des entrepreneurs, des investisseurs dans le pays, eh ben, une des choses, il faut que la vie soit simple pour cet investisseur ou cet entrepreneur. S'il vient et que c'est compliqué, c'est difficile, ça coûte cher, eh ben, il n'est définitivement pas intéressé. Combien de temps ça prend? Quelles sont les étapes? Quel est le coût que ça représente? C'est les mêmes questions qu'on va se poser. Recruter ou sinon, quelle est la protection de l'investisseur? Quelle est la protection juridique, légale qui existe? L'octroi de permis et de licences, eh ben, quels sont les permis? Combien de temps que ça prend? Quel est le coût que ça représente?
C'est justement dans le but d'aider les dirigeants d'entreprise et les décideurs politiques que la Banque mondiale mène chaque année, comme vous le savez, une enquête pour évaluer le climat d'affaires et l'activité commerciale de 185 pays du monde. Cette année, le Maroc, qui avait enregistré un bond spectaculaire, on le rappelle, de 21 places l'an passé, recule de 3 places cette année, donc dans le Doing Business 2013, se classant à la 97e place. Le premier point faible qui a été relevé dans cette étude, c'est l'enregistrement des titres de propriété. Le second concerne la résolution des problèmes d'insolvabilité. Et le troisième, le paiement de nombreuses taxes. Alors, même si l'économie marocaine s'est développée et modernisée au cours des dernières années, ça c'est quand même indéniable, grâce notamment à la mise en œuvre de réformes améliorant le climat des affaires, il reste quand même des défis à relever. Alors, je voulais vous demander, selon vous, quelles sont justement les mesures prioritaires susceptibles d'améliorer le climat des affaires, compte tenu de ce qui vient d'être dit par Ouroum Gogoroun.
Le relais de Zineb Belrhiti, on va commencer peut-être avec vous, Yacine Mekaou, sur ce qu'on a entendu, sur ce qu'on a écouté. L'info, l'accès à l'information, la circulation de l'information, la stabilité politique, le risque pays, la complexité administrative, la protection juridique de l'investisseur. Clairement, aujourd'hui, est-ce que nous, au Maroc, on garantit cela? Ou est-ce que ça pêche? Ou est-ce qu'il y a des points noirs?
Je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous accueillons des investisseurs étrangers au Maroc, ils ont déjà un a priori favorable, sur la stabilité politique notamment. Je pense que c'est quelque chose d'important pour un investisseur qui a une aversion vis-à-vis de ce qui est instabilité politique. Donc quand je mets mes billes, j'ai envie de savoir si je suis rassuré ou pas. Je pense aujourd'hui, on a un tout fondamental à ce niveau-là, d'avoir une stabilité politique et d'une visibilité qui nous permet en tout cas d'attirer des investisseurs. Maintenant, quand je les attire, il faudrait que j'en prenne soin. Je peux avoir le meilleur arsenal juridique fiscal du monde, mais si enfin je ne l'applique pas, si je ne sais pas l'appliquer, si je suis mal organisé, si j'ai de la corruption, ça ne marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai travail que nous avons à faire, c'est peut-être le faire du back-office. Et le back-office, c'est quoi? C'est les administrations quand elles accueillent l'investisseur. Parfois, il suffit d'avoir une mauvaise information qu'un investisseur reparte. Cet investisseur qui allait créer 1000 emplois se retrouve à repartir.
Vous avez vécu ça, vous, Yacine Mekaou? Vous avez vu des investisseurs?
Je vous parle en connaissance de cause.
Ben oui, c'est pour ça que je voulais.
Je vous parle en connaissance de cause. D'un cas réel, d'une entreprise qui était en train d'arbitrer entre Maroc et Tunisie il y a 2 ans et qui finalement a choisi le Maroc parce que, bon, il y a eu aussi le...
Elle a bien fait. Sur la base de quoi?
Sur la base notamment des événements qu'il y a eu en Tunisie.
Voilà, donc c'est vrai.
Sachant qu'au début, ils allaient partir en Tunisie pour des raisons fiscales, etc. La Tunisie était plus intéressante en matière fiscale.
Et je voudrais juste souligner justement par rapport à la Tunisie que dans le Doing Business 2013, qui est quand même un classement... 2013.
Ah, d'accord.
Qui est quand même un classement important pour justement évaluer le climat des affaires d'un pays. La Tunisie nous devance de loin, et cela malgré le printemps arabe et l'instabilité.
Et malgré le départ de Ben Ali, la chute du régime de Ben Ali, que l'économie soit par terre, que les islamistes soient arrivés aux responsabilités, qui est des salafistes. C'est important ça.
C'est fondamental, sachant
et
que...
Et pourquoi? Non, mais comment vous expliquez, vous, Yacine Mekaou, que la Tunisie...
Je pense qu'ils ont parlé...
Et je salue d'ailleurs les Tunisiennes et les Tunisiens, y compris celles et ceux qui ont fait la révolution au nom de la liberté. C'est comment se fait-il qu'ils sont devant nous au niveau du classement Doing Business, climat des affaires, après ce qu'ils ont vécu et subi?
Je pense qu'ils ont parfois, moi je me suis...
Oui, c'est Mekaroun.
Parce que quand on a des investisseurs comme ça, on va chercher aussi ce qui se passe en Tunisie. Et en allant chercher en Tunisie, c'est vrai qu'ils ont des mesures fiscales qui sont parfois très intelligentes. Sûr. Exemple, un investisseur qui ne paye pas son IR, son impôt sur le revenu fin de mois, au Maroc il est taxé à 15%, 20%, etc. En Tunisie, il considère, je trouve ça très intelligent, que c'est un retard de paiement, que ce monsieur est en difficulté de trésorerie, donc il le taxe comme si c'était un découvert. Je pense que c'est des choses qu'il faudrait explorer.
C'est-à-dire qu'il le responsabilise.
On est dans la bonne foi. On est dans la bonne foi de l'entrepreneur et donc lui donne, on le considère qu'on le finit.
Cette bonne foi, est-ce que ce schéma-là est transposable chez nous? Est-ce qu'on est tous aussi de bonne foi? Yassine Mekaroun, effectivement, on peut faire confiance aussi. C'est-à-dire, si moi, par exemple, moi, Rachida, où j'ai pas payé mon IR, l'État va considérer que j'ai quelques difficultés ou j'ai peut-être oublié.
Il y a la bonne foi, bien évidemment. Elle doit être, j'allais dire, c'est la bonne foi qu'on peut la donner, bien évidemment. Mais il y a aussi des moyens de contrôle. Exemple, aujourd'hui, on parle de l'informel. Comment contrôler l'informel? Le train de vie de l'entrepreneur avec ses bilans. Donc des choses qu'on peut déjà faire, comment les déployer. Exemple, je vais aussi parler rapidement du contexte marocain. Aujourd'hui, on parle, les entreprises qui déclarent à travers Internet, ce sont celles qui dépassent 50 millions de chiffre d'affaires. Il faut absolument aller vers la généralisation de ce mode, parce que c'est de l'Internet, c'est du web, et aussi changer le mode, parce que le mode actuel ne permet pas de recouper et de retrouver rapidement les gens qui fraudent. Bon, rapidement,
donc ça, c'est un message pour le ministre de l'économie, de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies,
c'est impôts, après la Mara. C'est au niveau des impôts.
Aussi, c'est transversal avec différents départements.
Généraliser tout ce qui est télédéclaration.
Pardon, Fadel.
Oui, je crois qu'il y a deux points sur lesquels on pêche. On pêche sur la justice. Ça, c'est fondamental. On a parlé de stabilité politique, etc. Et on parle toujours de la même chose. Effectivement, on est un pays stable et c'est bien. Maintenant, il faut regarder au-delà. La justice, c'est un problème depuis très longtemps.
Selon vous, justement, excusez-moi de vous couper, on devrait commencer par généraliser effectivement des réformes de manière à ce qu'on ait une justice plus juste, ou est-ce que le premier chantier ne pourrait pas être aussi de favoriser une protection juridique vis-à-vis de l'investissement et de l'acte d'investissement? Est-ce que,
si vous voulez, l'investisseur, il est tributaire dans la vie de la société, dans la gestion de ses contrats, de ses contrats commerciaux ou de ses relations avec ses salariés, il est tributaire du droit. Simplement, le droit ne vaut que par son application. Et aujourd'hui, on sait bien, et on le pointe depuis longtemps, que tous les ministres de la justice depuis 10-12 ans, depuis qu'effectivement on a mis comme priorité la réforme de la justice, se sont cassés les dents sur la justice. C'est une justice qui pose problème. On peut avoir sur la même affaire, strictement la même affaire, 4-5 décisions de justice complètement différentes. Elle est lente, elle est lourde et elle est parfois incohérente et souvent incohérente. Donc ça, c'est un problème majeur.
Incohérente ou injuste ?
Incohérente et injuste. Incohérente avec les textes et injuste parce qu'effectivement, il y a des pratiques sur le terrain qui peuvent prêter à caution, mais ça, tout le monde le sait. Et on est tout le temps pointé là-dessus, et depuis plus de 10 ans, il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là, et c'est une catastrophe pour l'investisseur, c'est une catastrophe pour notre image.
Et pour le citoyen.
D'ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc l'a dit récemment sur l'une de vos émissions, et on le reprend d'ailleurs l'ambassadeur de l'Union Européenne aussi. Donc ça, c'est un fait. C'est un fait qui ne bouge pas.
Fidèle auditeur d'Avec ou sans parure.
Deuxièmement, on a un problème de bureaucratie administrative qui est là sous un concept administratif très ancien, trop ancien, complètement dépassé avec l'ère moderne. Et on a normalement ce nouveau concept d'autorité qui a du mal à se mettre en place. On a des administrations tatillonnes qui interprètent les textes à leur façon, selon leur lecture. Et on peut avoir, là aussi, selon les territoires dans lesquels on est, une interprétation de la loi complètement différente.
Tout ce qui est CRI qui a été mis en place pour simplifier l'acte d'investir.
Les CRI, typiquement, on sait que ça ne marche pas. Typiquement, on sait que ça ne marche pas, ça n'a pas porté les fruits qu'on voulait. Sur le terrain aujourd'hui, l'administration, c'est un gros problème pour l'investisseur, y compris sur l'application des lois fiscales. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui que sur les taux appliqués sur l'IS, sur la base, à la fois le chiffre d'affaires, etc., aujourd'hui, on sait très bien que l'administration a sa propre grille et qu'elle réévalue systématiquement les informations ou les données qu'on lui donne. C'est-à-dire que aujourd'hui...
Mais pourquoi ce climat de défiance? On va essayer de comprendre aussi, parce que voilà, c'est bien, vous avez fait effectivement l'état des lieux en constat, mais pourquoi ce climat de défiance par rapport à l'exemple qu'a cité Yassine Mekaroun tout à l'heure en disant, voilà, en Tunisie, ben, celui qui n'a pas forcément déclaré son IR, l'État ne lui saute pas forcément dessus. Et pourquoi chez nous
L'administration tunisienne, y compris douanière, sur les exportations, etc., c'est très vite et très tôt rapproché des entreprises. C'est qu'il y a eu un partenariat, les procédures ont été mises à plat, c'est qu'on les a simplifiées, et ça depuis 20 ans. Parce que n'oublions pas que la Tunisie, petit pays, effectivement, en termes d'exportation, était un moteur, était un leader en Afrique du Nord, avec des entrepreneurs extrêmement efficaces, extrêmement portés vers l'exportation, et une administration qui les soutenait. Au Maroc, c'est un problème différent, c'est que l'administration vit avec suspicion l'investisseur, c'est toujours frein, blocage, contrôle.
Médiceptive, vous voulez réagir ensuite, Loublin, Kérou, ou Loublin. Médiceptive, va laisser Loublin, Kérou réagir.
Bien sûr, mais c'est ce que je voulais te dire,
Rachid. C'est gentil, tu me connais. Loublin, Kérou, chef d'entreprise, par rapport à tout ce qui était.
Donc moi, je vais revenir sur
l'information. Justice, protection juridique, l'information. Ouais, c'est le premier point qui a été soulevé, d'ailleurs.
Oui,
c'est intéressant parce que c'est la journée mondiale aujourd'hui.
La journée mondiale, et actuellement, je participe au 5e congrès de la femme africaine. Ça regroupe toutes les femmes d'affaires en Afrique, etc. Et j'étais un peu surprise, bon, pas trop surprise quand même, que chaque investisseur qui vient au Maroc, il n'a pas un interlocuteur unique. Il ne sait pas à qui s'adresser. Il ne sait pas.
Mais il y a une direction des investissements qui existe d'ailleurs, qui est basée à Rabat. C'est ça ?
L'AMDI.
C'est l'AMDI.
Il y a une agence en tout cas qui. Ben,
moi,
qui
les
existe,
investisseurs que j'ai rencontrés, quand ils sont là, ils sont perdus. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Ils ne savent pas où ils peuvent avoir les informations. Ils ne savent pas. J'étais surprise de voir une Africaine au Tchad et qui voulait importer l'huile d'argan de France. Et là, je me suis posé une question. Et il est là, mais il ne sait pas où s'adresse une autre personne de l'Afrique du Sud.
Qu'est-ce que vous lui avez dit, vous, Mme Lakerou,
Nous sommes citoyenne. Les producteurs, normalement, nous sommes les producteurs et que je suis prête,
etc. Mais vous l'avez orienté,
je
veux dire, qu'est-ce que vous avez dit?
Bien sûr.
Vers
des coopératives qui sont à Sawira.
Donc, connexion directe, en fait,
exactement,
sans passer forcément par l'État,
exactement.
L'administration.
Et il y a d'autres femmes d'affaires qui sont là, mais...
En tout cas, pour elles, le Maroc est attractif. Vous avez rencontré aussi
j'étais là pour la première fois. D'ailleurs, ce genre de congrès, il est intéressant. Pour moi, il faut se diriger vers l'Afrique, ne pas rester dépendant de la France, etc. Parce que l'Afrique, maintenant, c'est l'avenir.
Il faut surtout éviter aussi d'avoir des propos sur des tabloïds et des magazines qui associent
des
populations subsahariennes
à Fléau,
à Guémou, à MAX.
Et là, je reviens sur Sébine Colomb quand il a dit que l'objectif, en fait, il faut avoir une stratégie unique des médias, des acteurs économiques, des acteurs politiques, etc. Il ne faut pas qu'on soit sur une arène où il y a des partis politiques qui se combattent, etc.
Mais si c'est dans le débat d'idées, c'est pas gênant.
Non, le combat d'idées, oui.
C'est le combat de personne qui est embêtant.
Oui, tout à fait, exactement.
Mais dis, voilà. Petit.
Moi, je voudrais revenir sur l'édito de Zine Belriti. Mm-hmm. La personne qu'on a entendue à la radio, je suis désolé, j'ai pas...
Ouais, il a un nom compliqué, en plus, elle va nous le rappeler éventuellement, Zine Belriti, mais le nom est extrêmement compliqué.
Gourbouroun.
Merci. Alors, il a utilisé des mots un peu forts. Moi, je voudrais dire que l'image, oui, on a une très bonne image. Un pays à risque, nous ne sommes pas un pays à risque. Bon, le printemps arabe, nous l'avons subi.
Nous n'est pas axé sur le Maroc.
Oui, le printemps ne parlait pas du Maroc
j'en
en
reviens,
particulier.
Voilà. Alors le doing business, moi je sais que tout chef d'entreprise et gouvernement observe ce doing business avec beaucoup d'attention. Donc si on a perdu 3 places, effectivement, il faudra remettre un peu d'efforts pour revenir aux places, sinon les améliorer. Mais moi j'ai envie de dire une chose et compléter le propos de mon collègue d'en face.
Oui, Radou Fadel.
Voilà, sur l'insécurité juridique, je suis d'accord avec vous, mais il manque aussi autre chose. Pour investir dans un pays comme le Maroc, il faut aussi que le marché soit aussi large que possible. Vous avez reçu il y a quelques semaines l'ambassadeur de l'Union européenne au Maroc.
Il disait
que sans un marché à 100 millions d'habitants, autant dire, il parlait de l'humain, le marché marocain est trop restreint. Alors pour des investisseurs étrangers, il faut aller dans ce sens aussi. Les ouvertures de frontières avec notre voisin de droite ou de gauche, ça dépend de comment on est assis, est important.
Le plus gros est à gauche.
Pour essayer d'élargir le... Alors, je voudrais aussi juste terminer mon propos, c'est qu'on a une chance terrible dans ce pays, c'est que nous avons un roi qui est jeune, qui est très motivé. Quand ma collègue disait le roadshow dans les pays du Golfe, c'est exceptionnel. En quelques jours, 5 milliards de dollars d'investissement prévus sur les 5 prochaines années, c'est une chance. Et je pense que pour rester sur une note d'optimisme...
Vous avez vu la couleur des dollars? Moi, je me méfie là aussi.
Ça va se faire.
On parle de dons.
Quand sa majesté met le doigt sur quelque chose, il finit par...
C'est pas au niveau du roi Métis, c'est simplement de se dire, voilà, effectivement, on est sur les annonces, effectivement, le roadshow était nécessaire, et c'est effectivement, de toute façon, ce qu'a reconnu aussi Nicolas Ndaborou, l'ambassadeur de l'Union Européenne, au Maroc, sur le fait que le Maroc devait s'ouvrir, ce qu'a soulevé aussi Yassine Mekeroum, c'est-à-dire aller là où ça fonctionne, là où il y a des sous, là où il y a des pétrodollars, et là où il y a aussi une certaine proximité géographique et surtout culturelle. Et culturelle.
Oui. Simplement, je voulais réagir. Non, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, au Maroc, tout ne va pas mal. On a quand même un code des investissements qui est plutôt favorable. D'accord, c'est vrai que dans son déploiement, les CRI...
C'est toujours pas favorable pour qui?
Pour les opérateurs.
Tous les opérateurs?
Simplement, Oui, pour les opérateurs. Alors évidemment, les opérateurs étrangers sont choyés. Effectivement, il y a des systèmes de dérogation qui fait qu'ils viennent et que les opérateurs marocains se posent des questions sur pourquoi est-ce que moi je ne bénéficie pas de la même chose.
Des dénonces sous forme d'injustice fiscale en termes de traitement. Vous voudrez bénéficier des mêmes avantages fiscaux que l'investisseur étranger, par exemple.
On va appeler ça une discrimination positive envers les investissements directs à l'étranger. Mais oui, effectivement, les opérateurs marocains se posent des questions. Pourquoi cette différence? Ce que je voulais dire par rapport au code des investissements, il est favorable. Ce qui freine l'investissement, c'est cette espèce de règlement juridique et fiscal, comme disait Yassine Mekroum. C'est ça, c'est-à-dire que l'opérateur n'a pas de visibilité entre si je vais en justice, ça devient aléatoire. J'avais entendu un chiffre, je n'ai plus ce chiffre, du nombre de cas que devait trancher un juge par jour. C'est quelque chose d'impressionnant. Quand on ramène ça à une chose jugée toutes les X minutes, c'est quand même... Bon, maintenant, la médiation est en train d'arriver, l'arbitrage est en train d'arriver au Maroc. C'est très bien, c'est une très bonne chose pour l'investissement. Tout à l'heure, juste avant la pause, vous me posez la question par rapport...
On a fait une pause. Une pause de 10 jours, je vais faire un petit mot là. Simplement le temps de saluer l'arrivée des Inébalati hier, 15 heures.
Ça dure 30 secondes. C'est la pause, donc c'est vu comme une pause. C'est bien, c'est plutôt positif.
Ça veut dire que la première heure était intensive en termes de débat.
Par rapport à ce qui manquait à cette loi de finances, je parlais de la taxation des niches fiscales. On a parlé tout à l'heure de l'agriculture, des choses comme ça. Mais il faut taxer le riche. Je parle en tant que dirigeant d'entreprise.
Taxer le riche pour faire quoi?
Alors justement.
Pour faire tourner l'économie, pour plus exporter, pour avoir moins de chômage.
Non, parce que nous avons un besoin de solidarité. L'État doit garantir la solidarité. C'est ce que nous croyons au CJD. Mais simplement, le riche n'est pas celui qui travaille plus.
C'est qui le riche chez nous?
Pour nous, le riche, c'est celui qui dépense le plus. Celui qui dépense dans une belle montre, celui qui dépense dans une belle voiture. Le riche, c'est celui qui...
Même si l'enrichissement laisse à désirer, peu importe le temps, du moment où il dépense, il est riche et on en reste là.
Ce que je suis en train de dire, c'est que les signes extérieurs de richesse, pour nous, c'est ceux-là qu'il faut aller taxer le plus. Il faut aller taxer les dépenses luxueuses, parce que quand vous taxez le revenu, quand vous taxez le travail, c'est un mauvais message que vous faites parvenir. Nous devons également, il y a aussi un autre
juste de... Mbata, vous savez, quand on taxe, effectivement, vous avez fait référence sur la base des signes extérieurs de richesse, c'est-à-dire des voitures luxueuses et autres, c'est aussi une économie qui tourne.
Oui, alors.
Voilà, donc simplement.
Ce n'est pas du tout élastique au prix. C'est une économie qui n'est pas élastique au prix.
Et est-ce que c'est pas une atteinte aussi aux libertés? C'est-à-dire, j'ai le droit de consommer, de dépenser, de dire je dispose de moyens.
Mais la voiture à 1 million
de dirhams. Même si j'ai eu recours au crédit, que j'ai du mal à boucler les fins de mois,
ça peut arriver aussi. Mais si vous achetez une voiture à 1 million de dirhams et qu'on vous dit le lendemain, elle est à 1 100 000 dirhams, c'est-à-dire 10% de plus, vous allez l'acheter quand même. Par contre, si on vous dit qu'une bouteille d'eau qui coûte 3 dirhams va coûter demain 3 dirhams 50, c'est très élastique au prix. Ouais. Ce que j'allais dire aussi, c'est que nous avons au Maroc une tare qui s'appelle le patrimoine non productif. Et il n'est pas inquiété du
patrimoine dormant.
Le patrimoine dormant. Ce patrimoine dormant, il est là.
Tranquille. Il y a une mesure dans le projet de loi de finances. Le Conseil économique et social a fait des propositions aussi dans ce sens. Il y a une mesure. Surtaxer le patrimoine dormant.
Mais j'ai surtaxé. Il y a un projet dans la loi de finances 2013 qui propose justement de taxer, je pense, à hauteur de 20%, le bénéfice sur le foncier dormant.
D'accord.
Dans la loi de finances.
Le bénéfice, la proposition du Conseil économique et social, c'est de surtaxer, c'est-à-dire que mettre une pression fiscale sur du patrimoine dormant.
De les obliger à rentrer dans l'économie.
Obliger le propriétaire, effectivement, de libérer du foncier, déjà, pour
la succession.
Pour l'habitat,
la succession, qui est souvent une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi l'occasion de faire l'inventaire de ce patrimoine non productif.
Il y a d'ailleurs déjà la taxe sur les terrains non bâtis qui existe, et puis, effectivement,
qui a augmenté d'ailleurs ces dernières années, la taxe.
Oui, il y a la taxe sur les terrains non bâtis en milieu urbain qui est déjà assez élevée, et puis il y a la cession des terrains dont l'IR sera augmenté, la cession des terrains par les particuliers dont l'IR sera augmenté. Mais il y a deux autres freins à doing business dont on n'a pas parlé et qui, cette année, risqueront de nous pénaliser au niveau du classement. Il y a le problème des grèves et des litiges sociaux. On a vécu deux années extrêmement difficiles avec des grèves un petit peu anarchiques, avec des grèves des occupations d'usines. Mmh. Et ça risque de nous pénaliser sur le prochain classement. Et puis, on en a parlé rapidement, mais c'est ce niveau de fiscalité. On aura en 2013 des assises fiscales pour remettre à plat,
mars 2013,
ouais. Nous dit-on, la fiscalité. On a une des fiscalités les plus lourdes du monde. Jugez plutôt, on a un pays sous-développé. On a une TVA à 20%.
Parce qu'il y a peu de monde.
C'est énorme.
Il y a peu de monde qui participe à la.
C'est 20%. C'est pour ça que ça coûte cher.
À 20%. Et on a un IS à 30%. 17 taxes, je pense, à payer. Bien donc entendu, non seulement il faut les payer, elles sont très nombreuses, mais en plus, il y a une perte de temps qui est énorme juste pour justement s'acquitter de ces taxes.
L'enregistrement, parce qu'on est très peu, à payer. Autour de cette table, on est tous salariés, donc on
bien entendu, c'est pour ça qu'il faut élargir l'assiette fiscale. Donc, on n'aura pas un redéveloppement sans réforme fiscale.
Tu as eu un invité il y a deux jours, il a parlé de Marocains
résolument
engagés. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il faudrait que tous les Marocains soient résolument engagés pour payer leurs impôts, parce qu'ils roulent tous sur les infrastructures que l'État a payées de nos impôts. Donc c'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est un citoyen marocain, c'est un citoyen qui paye ses impôts.
Bah, ça veut dire que c'est l'État qui doit faire son boulot. Pas forcément s'en prendre à celui qui passe entre les gouttes. C'est
je ne sais pas comment il faut faire, mais il faut que le citoyen marocain commence à payer.
Puis il faut réformer les niches fiscales aussi.
Il y a une expression qui dit « pas vu, pas pris ». Hein. Donc, Zine Beretti.
Oui, on a évoqué l'informel, on a évoqué la corruption, le déficit en innovation, les ressources humaines aussi, la justice, la concurrence, en fait ce parallèle concurrence monopole, les situations de rente, il y a énormément.
On a pas trop parlé de ça d'ailleurs.
Mais on aurait dû peut-être dans une autre émission.
On invitera ce beau monde d'ailleurs.
Voilà.
Une thématique de ce genre-là.
On va faire une deuxième saison.
Effectivement.
Non, c'est vrai que c'est énormément de défis auxquels reste confronté l'environnement des affaires au Maroc. Pourtant, comme certains l'ont précisé autour de cette table, l'évaluation du climat des affaires au Maroc a permis, en matière de politique commerciale, d'attractivité des investissements et de privatisation, des avancées qui sont quand même notables. Les efforts fournis quant à la promotion des PME, par exemple, et aux partenariats public-privé sont aussi à saluer, tout comme la réalisation de grands chantiers d'infrastructures.
Qui ont été initiés aussi ces dernières années.
Voilà, tout à fait.
Aujourd'hui, d'ailleurs.
Donc, il y a des étrangers, notamment des Européens, et puis pour aller plus dans le focus des Français, parce qu'ils sont proches, disons, au niveau culturel, au niveau de la langue, qui prennent le risque de venir s'installer au Maroc et même d'y investir. Et de nombreux médias, notamment TF1, France 24, iTélé, se sont intéressés dernièrement et cette dernière année à cette question-là de leurs citoyens qui viennent s'installer au Maroc, parce que crise économique oblige. Et donc, on va écouter certains extraits. On en parle juste après.
Avant, il y avait le rêve américain. Et maintenant, il y a le rêve marocain. Vous avez beaucoup d'avantages pour les gens qui veulent investir au Maroc, au niveau des impôts, des taxes. Le système bancaire est devenu très, très, très rapide et très performant au Maroc. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire qui existent déjà en Europe et qu'il n'y a pas au Maroc.
Quand on voit des industriels français et qu'ils parlent du Maroc, ils disent deux choses. Un, c'est très administratif, c'est très bureaucratique, vraiment c'est compliqué, la bureaucratie marocaine est compliquée. Et deux, il y a de la corruption.
J'avais pas des perspectives d'évolution qui m'intéressaient. J'étais pas assez branchée, j'avais envie de faire autre chose. Et créer une entreprise en France, non, c'est pas quelque chose d'envisageable. Ça fait très peur, les charges sont énormes.
Avec l'avènement de Sa Majesté, que Dieu glorifie, nous avons connu maintenant une période extraordinaire. Il a donné des priorités à la ville de Tanger. Donc il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de constructions et il y a également l'immobilier touristique. Et ça, c'est un créneau qui est très intéressant.
J'ai des amis qui me manquent et des choses aussi en France qui me manquent. Quoi. C'est pas, alors ça, c'est plus loin que le porc ou le fromage, mais... Il y a des manières d'être qui me manquent. Il y a des choses où je me sens un peu restreinte ici, des libertés que j'ai moins. Tous ceux qui arrivent, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi je pars. Après, il ne faut pas se tromper. Quoi. C'est un pays qui reste quand même difficile. Il y a une vision de l'étranger particulière. Alors, on te fait plus confiance, mais en même temps, tu restes toujours différent. On peut essayer vite de t'avoir. Il y a des difficultés dans l'administratif, dans les contrats de travail, dans les choses comme ça qui font que ça prend énormément de temps et que tu restes dans des situations un peu bancales.
Il y a une accélération d'une évolution qui a été enclenchée et franchement, nous sommes tout à fait confiants et nous continuons à investir.
En bref, il semble que le Maroc doive améliorer sa communication et son image, comme on l'a dit tout à l'heure, l'image relative justement à l'environnement des affaires, renforcer ses efforts de lutte contre la corruption, réduire les contraintes foncières, continuer à simplifier les procédures et à améliorer ses infrastructures, dans le but justement de soutenir le développement d'activités qui soient créatrices d'emplois et de développer des compétences managériales. Alors, juste rapidement et pour finir, si on devait faire un focus sur les domaines où le Maroc offre justement le plus d'opportunités d'investissement nationaux, régionaux et internationaux, sur quoi est-ce qu'on devrait cibler et quelles sont justement les opportunités à privilégier ?
Lumna, Théo, peut-être une réaction sur ce que vous avez entendu aussi ?
Pardon ?
Ce que vous avez entendu sur ce que... Tous les témoignages qu'a collecté Zineb Belhriti qui sont passés en boucle.
Ce sont des extraits d'émissions.
D'émissions. Ouais. Bon, là, il y a la corruption vraiment qui pose un problème. La corruption et la lourdeur administrative. Donc,
le témoignage féminin, je pensais que vous alliez réagir sur le témoignage de cette jeune dame qui dit « Le Maroc, c'est sympa, mais c'est un pays difficile aussi à vivre au quotidien. Je m'y projetais, mais bon,
c'est un pays difficile, même pour les Marocains. Hein.
Non, non, mais voilà, comme c'était pour...
Même pour les Marocains, c'est un pays difficile. C'est pas facile de monter une affaire. Exactement, c'est dans le monde entier. C'est pas seulement dans le Maroc. Faire une entreprise, c'est un combat. Un combat continu, donc...
Parce que je rappelle d'ailleurs que vous êtes chef d'entreprise et que...
Exactement, c'est un combat continu.
Chef d'entreprise à Fès.
Non, pas à Fès, non, c'est à Marrakech.
Marrakech ?
Exactement, c'est sur Marrakech, Inch'Allah. Donc voilà, il y a l'accès à l'information, la lourdeur, la corruption. On veut que ce soit plus flexible, plus aide. Et en parlant des secteurs, puisque je travaille, je prépare un doctorat sur l'économie sociale, je pense que l'économie sociale est un vecteur très très important et que l'État doit s'orienter vers ce...
Bah, vous allez avoir un cas d'école avec la création du Fonds de solidarité. C'est un peu de l'économie sociale, non ?
Je ne suis pas d'accord. Moi, l'économie sociale, ce n'est pas de distribuer des aides. L'économie sociale, c'est la production. On doit produire.
Avec un tour de fond, la philosophie, c'est l'élévation de l'individu.
On doit produire, on doit créer de la valeur.
On va faire un dernier tour de table, Mehdi Sebti.
L'investissement, moi, si j'avais à investir, ça serait dans l'éducation.
C'est rentable, ça, l'éducation ? Ça va faire plaisir. C'est quoi le niveau de rentabilité ?
L'éducation, parce que les ressources humaines sont les premiers intrants.
J'investis dans une école privée parce que j'ai...
C'est pas là le débat. On a vu ce qui se passe dernièrement à Ben Gréel. C'est extraordinaire. Je pense que c'est le secteur de demain. Il faut que la ressource humaine marocaine puisse accéder à l'éducation. C'est par l'éducation qu'on tire un pays vers le haut. Bien sûr.
Yacine,
juste un point, je reviens rapidement sur un point sur la notion d'interlocuteur. Pour un investisseur, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'AMD, on a les CRI, etc. C'est vrai qu'il faut travailler sur le fait qu'il y ait un interlocuteur unique.
Unique, exactement.
Et moi je pense qu'aujourd'hui qu'il est indispensable d'avoir un investisseur qui vienne avec son application iPad, iPhone, qui crée son entreprise et qui gère sa boîte avec son iPad, son iPhone, son Android. Je pense qu'il faudrait...
Comme aux États-Unis en fait.
C'est des modèles qui existent. Créer des applications qui permettent de dématérialiser la relation. Comme ça, on a moins de relations peut-être avec la bureaucratie. Et puis peut-être ça va.
Et ça c'est possible, c'est envisageable selon vous.
Je pense qu'il faudrait. Au CJD, nous disons toujours que impossible, ça veut dire I am possible. Tout est possible.
Ah ben très bien. Azim Sebata, oui, qui est le président national du CJD de Saint-Denis-Réunion. Qu'est-ce qui va sortir des possibles?
Je vais dire oui pour la solidarité. Oui pour la solidarité. Je vais le dire une troisième fois. Oui pour la solidarité, mais non pour la stigmatisation d'une catégorie. Non pour les messages qui finalement sont improductifs ou peut-être même destructifs ici. Je dis également que oui, il faut... quand je dis la solidarité, ça veut dire... La solidarité, ça veut dire... Il faut... enrichir les pauvres, ça ne veut pas dire appauvrir les riches, attention.
Exactement,
ouais. Nous avons quand même au Maroc beaucoup d'avantages, nous parlons trois langues, nous sommes à quelques heures seulement.
Qu'est-ce qui fait qu'on a des riches et des pauvres dans une société aussi?
C'est le modèle économique que le Maroc a.
Mauvaise répartition. Mauvaise répartition des richesses. Moi, je suis assez propre à tous les pays du monde, toutes les économies.
Oui, effectivement.
On voit même que la croissance économique a pour conséquence la croissance des inégalités.
Oui, mais il y a des pays où l'inégalité est plus forte qu'ailleurs. L'inégalité est plus forte qu'ailleurs parce qu'effectivement, il y a des économies de rente et puis on n'a pas accès tous de la même façon avec équité à l'enrichissement. Alors, moi, je voulais dire qu'effectivement, comme M. Sebti, l'éducation, la formation, c'était un secteur économique très important pour l'avenir, mais c'est effectivement un pilier du développement. Sur les secteurs d'activité, on parle beaucoup de l'agro-business. Les grands enjeux de demain, c'est la gestion de l'eau et la gestion de l'agriculture. Ouais. On sait bien aujourd'hui que les populations mondiales sont en train de se développer très fortement et qu'il y a une pénurie envisagée au niveau je suis obligé du business parce que, agroalimentaire.
Parce que je suis obligé de rendre l'antenne très vite. Et
effectivement, je suis assez d'accord avec Mehdi Sibti par rapport à l'éducation. D'ailleurs, la Malaisie, la Malaisie au tout début de son développement économique, et on voit où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, et on voit à quel niveau de climat des affaires elle est aujourd'hui, si je peux dire. Le gouvernement avait décidé justement consciemment d'investir sur l'éducation parce que pour ce gouvernement, c'était perçu comme le moteur de croissance de la génération à venir et la clé de la mobilisation sociale. Et je pense qu'on doit faire la même chose pour justement avoir une économie fondée sur la connaissance. Sur la connaissance, c'est ça qui est important.
Donc mettre le paquet sur l'économie du savoir. C'est ça,
tout à fait. Oui, c'est exactement ça.
Je vous invite à lire un supplément du journal Le Monde hier qui parle de nouvelles technologies pour éduquer dans le tiers-monde, dans les pays pauvres. À lire, très intéressant pour appliquer au Maroc.
Je le ferai, merci.
Merci infiniment à tous d'avoir participé au débat. Loi de finances, climat des affaires, les patrons sont-ils optimistes? Donc on veut dire quoi? C'est optimiste?
Optimiste,
mais réaliste aussi. Hein.
Marocain résolument engagé.
Ah, ça vous a plu, ça, c'est la citation.
Résolu, mais ça n'empêche pas de s'interroger sur la tiédeur de cette loi de finances qui ne répond pas aux défis majeurs de cette crise.
Il change pas de cap.
Peut mieux faire.
Très bien. En tout cas, merci. Merci à Loubna Kheroum, chef d'entreprise. Merci à Hazim Sbata, qui lui est président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Merci à Yacine Benkheroum, directeur général d'un cabinet d'expertise comptable et commissaire aux comptes. Merci à Mehdi Sibti, membre du comité exécutif de l'Alliance des économistes de l'Istiqlal et membre du conseil national de l'Istiqlal. Merci également à Ardon Faddol, dirigeant d'entreprise, et merci à Zina Belriti,
chroniqueuse
à Lux Radio, d'avoir donc participé et pris part et avoir alimenté ce débat sur la loi de finances, climat des affaires, les patrons sont-ils optimistes? Avec ou sans Paris, revient dès demain à partir de 14h avec un nouveau débat politique sans concession, malgré le jour férié, hein, parce qu'on ne savait pas trop d'heure. Je vous remercie aussi parce que jusqu'à 23h hier soir, on était au téléphone ensemble. Non, c'est pas férié, non, c'est férié. Mais ça, c'est aussi un autre débat.
Bonne année,
c'est l'après-midi à tous sur l'extradu, à demain.